c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h, c'est l'heure de Confidence et nous sommes lundi 19 décembre de l'année 2022. J'insiste sur l'année puisque bientôt nous serons deux en 2023 et on va oublier 2022. Oui, ce sera terminé quoi. Là, on avance tout simplement. Et j'espère que 2023 eh bien sera plus apaisante comme année, hein. Loin du Covid, loin des guerres, loin des conflits, loin des problèmes, loin de tout ce qu'on veut. Mais bon, chaque année on dit la même chose, mais bon, il n'y a pas interdit d'espérer, n'est-ce pas? Voilà, bienvenue à toutes et à tous, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver. Chers amis, ce soir, j'espère que vous allez bien, sinon je vous souhaite d'aller mieux. Voilà, je me souhaite aussi d'aller mieux, parce que je peux vous assurer que ce week-end j'ai dérouillé, hein. Bronchite avec une grippe, hein. Vous avez déjà vu ça? Ben oui. J'ai cumulé les deux. J'ai tout fait là. Paf, paf, paf. Allez hop. Ça, c'est tout moi. Ah, c'est pas évident là, vous voyez. Voilà. Je tousse encore un peu, donc vous inquiétez pas. J'ai une voix un petit peu bizarroïde d'outre-tombe, comme on dit. Mais avant de vous donner la parole, alors, venez nombreuses et nombreux. Vous exprimez à l'antenne sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez songé peut-être tout le week-end, vous avez envie de nous le faire partager, allez-y, venez. Peut-être un sujet personnel, peut-être moins, d'actualité. Ah bah tiens, j'ai l'écran, face à moi, c'est bien. Donc les Bleus sont en route vers la Concorde, la place de la Concorde. Ah génial, parce que chez moi je me suis dit, ah mince, je vais louper. Ben non, je le loupe pas puisque je l'ai en direct. Et oui, nos Bleus, hein, Mbappé et puis tous ses coéquipiers, voilà, Didier Deschamps, qui, le pauvre, il en a bavé, hein. C'était pas évident, et Mbappé m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Vraiment, il m'a fait verser des larmes. Et puis les autres aussi, hein, je connais pas tous les noms. Il y a Griezmann, il y a, je sais plus. Je retiens pas les noms parce que je suis pas très foot, hein. Mais une équipe, quand même, qui est l'équipe nationale, hein. Là, on est tous derrière l'équipe de France, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, eh bien, on a espéré, hein, vous avez vu, jusqu'au bout. Hein. On a espéré, on a retenu notre souffle, tout. Mais bon, quand ça ne doit pas, ça ne doit pas. Comme ça, comme on dit. Hein. Moi, je dis c'est injuste. Oulala, Adem, c'est injuste. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, les deux équipes, avec l'Argentine et la France, ils sont arrivés en finale. Moi, j'y connais rien en foot. Hein. Je suis dans une espèce de cohérence et de logique. Hein. Vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Tous les deux ont fait beaucoup d'efforts pour arriver, les deux équipes, pour arriver à ce résultat. Vraiment. Donc, et l'équipe de France, un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce que à Doha, au Qatar, les supporters n'étaient pas tous au rendez-vous. Il y avait beaucoup plus de supporters argentins en tout cas. Juste avant la demi-finale avec le Maroc, il y avait plus de Marocains ou qui soutenaient le Maroc. Bien sûr, c'est un pays arabe, c'est normal, on le comprend. Il y a aussi ce qui rapproche, la langue, la culture. Donc, bien entendu, ils ont été plus soutenus. Et puis, les Argentins, ils ont fait le voyage. Paraît-il que... Ah, mais c'est incroyable, hein, ils sont dingues, hein, les Argentins. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il y en a, ils ont hypothéqué leur maison. Il y en a, ils ont vendu leur maison. Sérieux. Pour assister à ce match. Non mais c'est de la folie, après ils se retrouvent à la rue ou la wesh? Comment on fait? C'est incroyable l'histoire. Non mais attendez, j'ai jamais vu ça. Elle vend sa maison pour assister à un match. Non, c'est que vraiment c'est des mordus quoi, c'est des fous furieux de fous. Là on voit, hein. C'est vrai que l'Amérique du Sud, que ce soit nous ont habitués à ça, hein, le Brésil, la Colombie je crois. En tout cas l'Argentine, tout ça c'est des fous furieux, c'est leur première religion le foot. Ah, ils ont fait le déplacement. Donc, ils étaient plus nombreux dans le stade. Alors, moi, je pense qu'arriver à ce niveau, ce haut niveau, au bout d'un mois de compétition, on devrait, ce trophée, cette coupe, on devrait la faire en double. Je sais pas ce que vous pensez, moi je pense comme ça. Ce serait plus logique. Parce que il y en a toujours un qui repart déçu. Voilà, ils sont arrivés tous les deux en finale. Bah on fait une voilà, deux coupes. Voilà. C'est les deux méritants. Allez, il y a. Et puis après on joue le match hein, on joue le match juste amical, mais tous les deux ont droit, peu importe qui gagne. En plus le tir au but, vous vous rendez compte au tir au but genre non, non non. Donc on devrait leur donner à tous les deux. Oh là là, c'est comme ça que je vois la chose. Agda, il n'y en a pas un, les Mahgols, qui se sentent lésés. Vraiment. Moi, ils m'ont fait de la peine, hein, ces jeunes. C'est des jeunes, c'est des gamins. Voilà, donc ils ont la boule dans le ventre. Ils se sont donnés à fond pendant un mois. Ils sont arrivés jusque-là. Et puis là, pour un tir au but, un but, machin, etc., aléatoire, non. Non, il y a un truc qui ne va pas. Donc, alors ceux qui organisent ces compétitions, si vous m'écoutez... Si j'ai un mot à dire, voilà. Prochaine coupe, les finalistes, la coupe, elle est pour les deux. Adéhia. Voilà. C'est les deux méritants. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu penses, Bilal ? Bilal, j'ai raison ou pas ? Viens, Bilal, deux minutes. Bilal, il est là. Nablo. Bilal, j'ai mis une suggestion concernant. Parce que durant un mois, M'Saken, ils se sont donnés à fond. En plus, les Français, c'est vrai qu'ils n'étaient pas trop nombreux dans les tribunes, etc. Ouais. Les Argentins, t'as vu, ils sont fous furieux, les Argentins. Mais ils ont vendu leur maison. Ils sont hypothéqués.
Mais là, on aurait dû faire le nécessaire. C'est le problème de la fédération. Alors, on en parlait tout à l'heure, Vanessa. Non, il fallait aider nos supporters français à se rendre directement. Ouais. Il y en avait pas mal qui voulaient aller au Qatar en plus. Il y en a, ils n'ont pas pu y aller. Il fallait faire comme les fédérations. Comment c'est là où je ne comprends pas. Il y a des fédérations africaines qui ont mis de l'argent, tout comme la fédération, par exemple, tunisienne, la fédération marocaine qui a dit à leurs supporters, ouais, si vous payez votre billet, eh ben automatiquement on essaiera d'avoir les billets pour après aller voir un match de l'équipe nationale. Et nous on n'a même pas fait le demi de ce qu'ils ont fait. Ah, et oui, ça c'est malheureux parce qu'il y avait pas mal de jeunes qui auraient aimé être là-bas,
mais bien sûr,
à faire et à supporter Kylian Mbappé qui en aurait eu besoin avec tous les joueurs de l'équipe de France.
Tu sais, je connais des jeunes qui sont là-bas, qui étaient là-bas, j'ai eu au téléphone des proches, ils n'ont pas pu accéder. Ils ont pris le billet, etc. Mais ils ont d'avion, enfin, ouais, ils ont pris un hôtel et tout. Et pour accéder au, je dis alors, ben non, on regarde de l'hôtel dans un grand écran. Je dis non, mais attends, vous êtes arrivés jusque là-bas. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit les billets le moins cher qu'on a trouvé, 3 000 euros. On peut pas, c'est pas possible.
3 000 euros, hein. 3 000 euros. Finale de Coupe du Monde. Ah. Ouais, mais normal, hein. Finale de Coupe du Monde, c'est ça.
Ouais, je sais.
Tout le monde veut y être, hein.
Mais on aurait dû, comme tu dis, anticiper.
Ouais. Mais ça fait rien, Vanessa. Mais ce que je peux dire,
oui, vas-y.
C'est que Kylian Mbappé, il reviendra même très, très, très fort.
Je souhaite.
Sur la phase finale de Coupe du Monde pour les prochaines, 2026. Ouais. Il a le temps.
Ah, ouais.
Il a le temps. Mais hier, on a vu qui était la star. Et la star, c'était Kylian Mbappé.
C'est Mbappé.
Le vrai joueur, vraiment. Lui qui a réveillé les esprits.
Ouais.
Ça me faisait un peu rappeler comme Zidane. On ne le voyait pas, mais il était là. Voilà. C'est le plus grand.
C'est vrai.
Et hier, il a marqué les esprits à travers le monde entier.
C'est vrai.
Et bravo aux parents de Kylian Mbappé, Wilfried, et à Faïza. Qui est d'origine algérienne. Voilà, vraiment la maman, mais vraiment.
L'éducation, vraiment, tout vraiment, est dans l'éducation.
Il est vraiment intact, le gars. Il ira très très loin, Kylian.
Magnifique.
Ce sera lui, la prochaine Coupe du Monde. On a eu Messi.
Ouais.
Messi, il a terminé sa génération.
Ouais.
Maintenant, avec CR7, maintenant, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Et
voilà.
Kylian Mbappé fait partie de cette nouvelle génération.
Exactement.
Vanessa. Zidane, quand il est parti.
Zidane.
On a eu la vague Messi et Cristiano qui étaient là. Et ben, c'est pareil.
C'est vrai.
Et là, voilà, et ben, tu verras pendant 10 ans, 15 ans, on aura Kylian.
Eh ben, que Dieu t'entende. On prie très fort. Merci beaucoup, en tous les cas, pour cet éclaircissement, Bilal. Comme ça, on en sait plus. Bilal, c'est un fan. Bon, c'est un fan, et en même temps, il est journaliste sportif. Et il connaît tous les tenants, les aboutissants. Je pense qu'il connaît même des secrets qu'il ne veut pas nous dire. tu nous parleras de Benzema ? De Karim Benzema ? Ce qui se passe ? Il y a un truc, là. Il y a un truc qui n'est pas passé. Je ne sais pas ce qui lui arrive, Karim Benzema. Parce qu'on l'aime beaucoup, Karim Benzema. On l'aime beaucoup, mais apparemment, il dit qu'il veut quitter, etc. J'espère qu'il n'y a rien de grave, quoi, Karim. Rassure-nous, parce qu'on t'aime, Karim. On t'aime, vraiment. Voilà. Aïe, 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 ce foot, hein, ça nous rend dingue. Hein. Ça nous rend dingue, vraiment. Oui, parce que le foot, c'est pas que... Le foot, en règle générale, enfin, moi, personnellement, je ne le suis pas. Voilà, je ne suis pas foot du tout, j'y connais rien. Alors, corner, pénalty, tout ça, je ne connais rien. Mais par contre, des grands matchs comme celui-ci, Bah, tout le monde, hein, même si on ne connaît pas, on regarde. Hein, parce que... Eh oui, parce qu'il y a des personnalités derrière. Hein. Il y a tout ça, c'est important. Ben on y va, chers amis. Allez, 01 53 48 3000, une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà, il n'y a pas de raison.
Voilà.
Ben Faudil, merci d'être resté. Faudil est resté. Ben écoute, c'est gentil. Voilà. Oui, ben comme Anthony n'est pas là ce soir, donc tu étais présent avec nos amis juste avant.
Exactement.
Et tu as eu la gentillesse de
te voir d'ailleurs.
Ah ben écoute, moi aussi.
Toujours aussi belle.
Oh, c'est gentil. Merci infiniment. Et ça me fait toujours plaisir de voir ton joli sourire et d'avoir ta présence ici dans les studios. Et je suis sûre que toi aussi, tu as dû vibrer hier.
Exactement. Mais tout à l'heure, on a reçu une très mauvaise nouvelle avec le départ de Karim Benzema. Mais on peut le comprendre. On peut aussi s'y attendre et l'interpréter, parce que quand on voit la gestion de Karim Benzema bien avant le mondial, on savait qu'il y avait une cassure au sein de ses bleus, parce que il était déjà arrivé blessé avant cette Coupe du Monde. Ensuite, le staff technique a essayé de forcer sur lui pour qu'il soit prêt pour cette Coupe du Monde. Mais il faut savoir que pendant les trois premiers matchs du groupe, on n'avait pas besoin d'avoir un Karim Benzema, parce que on devait le laisser et le préserver. Hier, je pense que s'il était sur la feuille de match ou s'il était présent, il nous aurait fait le plus grand
bien,
parce qu'on a hier on avait besoin d'avoir des joueurs qui avaient de l'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de, surtout de jouer ce genre de match.
Oui.
Parce que c'est difficile et on avait besoin surtout de joueurs qui gardaient le ballon, parce qu'on le perdait très très vite et on avait affaire à des Argentins qui avaient faim, qui voulaient vraiment cette Coupe du Monde. Tout le mérite leur revient, parce qu'il faut être
fair play, oui, c'est vrai, tu as raison.
Malheureusement, on aurait bien aimé que cette troisième étoile soit sur le maillot de l'équipe de France, mais ainsi soit-il.
Ouais.
Le football, c'est comme ça, il y a toujours un gagnant, un perdant. On avait vu des larmes, on était très tristes par rapport à ce qui s'est passé, mais sincèrement, c'est ça. C'est la saveur et la déception du football, surtout pour moi, par exemple, qui est passionné, et j'étais un peu triste de voir qu'il y a Mbappé qui nous a sorti le match de sa carrière. Heureusement qu'il était là. Hier, on avait perdu sur un détail très important qu'il faut signaler, parce que on avait très bien joué à partir de la 75e minute, mais on n'avait pas un banc profond comme l'Argentine. Parce que les Argentins, ils ont fait des changements, ils ont fait rentrer du son neuf, ils ont incorporé des joueurs qui étaient frais physiquement et qui avaient l'habitude de ce genre de match, des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de jouer.
Il y avait une tactique, quoi. Il y avait déjà tout un.
Exactement. Et aux tirs au but, surtout pendant la séance fatidique des tirs au but et des pénalties, ils ont envoyé des joueurs qui étaient spécialisés dans la matière et qui ont l'habitude surtout de tirer ce genre de pénalties, alors que nous, en équipe de France, on n'avait pas assez de tireurs parce que les tauliers sont sortis.
Ils étaient passés un peu à côté
de leur match. Et il faut savoir que les joueurs qui ont tiré, ce sont des joueurs très très jeunes. Mais quand même, c'est une défaite avec beaucoup d'enseignements. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans les médias, on ne l'entend pas. Et moi, puisque là, je me permets dans ton émission de le dire, faut tirer chapeau à la formation française, parce que les jeunes joueurs qui sont sortis, qui sont rentrés sur le terrain, sont des jeunes joueurs âgés de 22-23 ans et qui ont quand même... qui n'ont pas l'expérience de ce genre de match, parce qu'il faut savoir que c'est une Coupe du Monde et parcourir 40 mètres pour tirer un pénalty, c'est 40 mètres.
C'est quelque chose. Hein.
C'est quelque chose.
On n'imagine pas, hein, parce que vous êtes sur un écran, ça semble simple, mais.
Déjà, nous, derrière notre écran, on est un peu stressé.
Ouais.
Mais quand vous voyez, par exemple, un joueur qui parcourt ces 40 mètres, peut-être ces 40 mètres, c'est peu pour certains.
Ah non, c'est quelque chose.
C'est énorme pour eux, parce que quand tu arrives devant ce point de pénalty, que tu poses ton ballon,
wow.
Tu sais que tu es regardé par des milliers et des milliers de
tout gens. Tout le monde
t'attend. Tu es attendu, que ce soit. Tous tes supporters sont derrière toi. Tu as ta famille surtout.
Mais toute une nation.
Toute une nation, une génération qui est derrière toi. Parce qu'il y a des joueurs, par exemple, qui joueront plus de Coupe du Monde.
Et en plus, c'est le but de ta vie, là. C'est ça.
Et surtout, c'est le but de ta carrière. Parce que tu te forges à jouer ce genre de match. Et malheureusement, c'est ça dans le football. Il faut que tu rates pour que l'autre gagne. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et malheureusement, on avait perdu. C'est comme ça. Et je pense qu'en 2026, l'équipe de France est très armée. parce que il y a des jeunes qui sont sortis du banc de touche. Je fais allusion à Kumalo Mwani par exemple, qui est sorti du banc de touche, qui a quand même à lui seul a réussi à apporter une fraîcheur, une agressivité. Il a compris qu'il jouait une Coupe du Monde, contrairement aux Bleus. Et autre point très important, les Bleus, il y avait un virus aussi. Les Bleus, bon, il y a quelques joueurs de l'équipe de France qui étaient tombés malades la veille. Ça leur a pas facilité la tâche.
Ouais.
Et quand vous avez aussi 11 Argentins derrière, qui défendent 10 Argentins derrière, qui défendent corps et âme pour donner ce trophée à Lionel Messi,
il
y a une motivation derrière.
C'était le mur du son, là, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais impossible à...
Mais on avait vu une très bonne Coupe du Monde et c'est la joie du football.
Ouais, exactement.
Et chapeau aussi pour le Qatar, pour l'organisation.
Ah là 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 là, quelle organisation magnifique.
On les attendait au
tournant. Le défilé à la fin.
Exactement. On les
bravo Qatari. Hein.
On les attendait au tournant, on voulait les critiquer, on s'est dit oui, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas ceci, ils sont
bah ceci. Voyons.
Et finalement, ils ont fait l'une des meilleures Coupes du Monde.
Exactement. Bah, ça a dérangé plus d'un que ça se passe déjà dans un pays arabe musulman. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc d'emblée déjà boycott, on leur tombe dessus. Soi-disant pour
23 millions.
Ouais.
Pour millions de Français qui ont suivi le monde.
Mais bien sûr, le monde entier a suivi. Donc leur boycott, hein, voilà, il est passé à côté. Donc non, mais c'est vrai. Alors, tout ça. Sous couvert de je ne sais quoi, d'écologie, de je ne sais... Comme si le petit Qatar, à lui seul, est en train de polluer la terre entière. Non, mais on va pas nous la faire, hein. Non, on va pas nous la faire à l'envers. C'est juste pas possible. On a compris, comme dirait un certain général. Nous vous avons compris. Non, le Qatar, bravo. Ils ont très, très bien géré, très bien organisé. Ça s'est hyper bien passé. Ils nous ont montré que c'était un peuple vraiment.
Ils ont donné l'exemple.
Hospitalier, respectueux. Mais vraiment, on était enchantés. Hein,
moi,
j'ai
eu l'opportunité d'avoir Hafez Dalhadji bien avant la Coupe du Monde, 6 mois avant la Coupe du Monde. Mm-hmm. Il avait affirmé que le Qatar était prêt à organiser cette Coupe du Monde, même en jouant tellement les infrastructures. Tout était déjà prêt. Tout a été mis en œuvre pour que les supporters passent un super séjour au Qatar.
Tu
et d'ailleurs, on entend sur les réseaux sociaux que des avis positifs. Et je suis très content pour eux. Ça fait plaisir. Et pourquoi pas une Coupe du Monde un jour au Maghreb ? On ne sait jamais.
Bah oui. Pourquoi pas ? Merci. Merci en tous les cas pour ce petit moment très, 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 très intéressant à travers... tes propos, Fodil. Et là, on va marquer une petite pause, ok. Alors, Fodil me dit, on marque une pause. Et on revient juste après, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou et sans langue de bois au 01 53 48 3000. Donc, les Bleus sont arrivés, place de la Concorde. Donc là, ils descendent du car et ils se dirigent, je crois, vers l'hôtel. J'espère qu'ils vont quand même aller vers les 10 000 supporters qui sont présents. Il y a 10 000 supporters quand même, c'est pas rien. Donc ils les attendent et la plupart, j'ai vu des jeunes filles tout à l'heure qui racontaient, qui disaient, même des enfants, des familles, qui étaient présents à Place de la Concorde depuis 16 heures. Vous imaginez, 16 heures, là il est quelle heure ? 21h20. Donc non, j'espère vivement, vraiment. Parce que faire un petit coucou comme ça du balcon, non, ça le fait pas. Non, là, franchement, je serais déçu. Hein. Du balcon, non, ils vous attendent. Ils vous attendent, ces gamins, ils ont besoin de rêver. C'est du rêve pour eux. Donc, c'est trop facile de faire de faire un petit coucou comme ça, juste du balcon. Non. Ils ont besoin de vous voir en vrai, descendez les voir. Soyez humbles, allez-y. J'espère, hein. Peut-être que je m'avance et ils vont descendre. Voilà, espérons en tout cas. 01 53 48 3000, je surveille, je veille au grain. Alors, qui nous a appelé en premier ? Mounir, du 95. Bonjour Mounir. Mounir, éteins ta radio, Mounir, on va s'envoler là.
Oui, il n'y a pas de souci, c'est fait.
Tu as éteint ta radio et le haut-parleur ?
Oui, impeccable.
D'accord. Bonsoir Mounir, bienvenue à toi.
Comment tu vas, Vanessa ? Ça va bien ?
Ça va, je te remercie. Ça
super,
va.
Impeccable. D'abord, je voudrais féliciter toute l'équipe de France qui a vraiment fait un très bon parcours.
Ouais.
De ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Voilà, ils nous ont donné du rêve et puis tant mieux pour nous, quoi. Et puis voilà, ils ont fait de nous vraiment. Voilà, qu'on a été très fiers d'eux, quoi.
Ben oui, puis ils nous ont détendus. Voilà. On avait besoin de ça après ces confinements, après tout ça, tu vois, Covid, tout. Bah, ouais. Écoute, ils nous ont fait du bien. Voilà.
Ah oui, bah, excuse-moi de te couper la parole juste.
Vas-y.
Une petite pensée à tous ceux qui sont partis cette année, l'année dernière, et puis pendant la période du Covid. Une grande pensée pour eux. Et puis particulièrement, moi, j'étais touché. J'ai perdu ma moitié, donc voilà.
Ah, les Ahmed Salia. Ta femme ?
Voilà, oui, tout à fait, ouais.
C'était quand ?
C'était en avril, il y a un an et demi.
Oh mon Dieu, du Covid, elle est partie. Tu m'avais pas appelé et tu m'avais parlé. Tu m'en avais parlé, hein, je me souviens.
Ouais, exact. J'avais appelé une fois la radio.
Oh là là, tu as des enfants, je crois.
Exactement. Voilà, tout à fait.
Tu as combien d'enfants, Mounir ?
J'ai quatre enfants. Quatre enfants. Bon, ils sont majeurs. La dernière, elle a 22 ans, mais bon, voilà. Leur maman a.
Bah attends.
C'est
très
difficile.
C'est compliqué. Mon Dieu. Puis c'est compliqué pour toi aussi.
Oui, ouais.
C'est dur, hein.
Ouais, vous savez qu'on passait 35 ans avec une personne.
Ouais.
Voilà, c'est très. Voilà, je pensais jamais refaire ma vie, franchement, jamais, jamais. Puis bon, là, ça m'est tombé dessus par hasard.
Ah ben,
et puis voilà,
c'est la vie.
C'est comme ça, ouais. Là, ça m'est tombé dessus.
Tu n'as pas culpabilisé, elle n'est plus là.
Oui,
tu comprends.
Malheureusement,
donc tu ne fais de mal à personne.
C'est moi qui l'ai attrapé, Et j'ai transmis, malheureusement, et voilà, je sais que. J'ai transmis aussi à mon.
Non, mais c'est pas.
Aussi, à mon gamin. Bah, j'espère qu'il. Ouais, lui aussi, il a failli passer. Je voudrais lui dire à la radio, là, que voilà, je suis vraiment désolé.
Non, ça, c'est pas toi.
Je ne sais pas s'il va m'écouter, mais bon, s'il écoute.
Oui.
Voilà, je sais pas comment. Voilà,
comment faire quoi ?
Voilà. Je me sens coupable quelque part. Voilà,
mais non, le virus, il a touché tout le monde.
Oui, je sais, je sais.
Toutes les familles, malheureusement.
Malheureusement, c'est ma chère, c'est mon fils. Je l'aime comme.
Mais oui.
Comme personne. Voilà, mais bon, en ce moment, on a quelques petits
bisbilles en ce moment à cause de cette rencontre. Écoute,
Mounir,
à cause de cette rencontre.
Comment ça?
Parce que tu as rencontré une femme.
Oui.
Et donc ton fils n'est pas content. Mais non, il faut. Tu sais, les enfants,
Il doit être content pour moi parce que qu'il est avec la personne qu'il est actuellement.
Comment tu l'as rencontré cette femme? Comment tu l'as rencontré?
Pas par hasard, parce que mes parents et leurs parents, c'était des amis, on allait chez eux, ils allaient chez nous. Bon, après, je vous parle ça, il y a 25 ans, 30 ans.
Vous vous connaissez.
Après, on s'est perdu de vue. Ah. Malheureusement, elle a perdu son papa, et bon, on a été les voir pour les décès.
Oui.
Et j'ai été le voir il y a deux ans pour ce qu'ils vont. Il est décédé.
Oui, oui.
Moi, quand j'ai perdu ma femme, c'est eux qui se sont déplacés, ils sont venus me porter les condoléances. Mmh. C'est comme ça qu'on est revenu dernier. Et puis voilà, c'est notre truc, quoi. Voilà, même
c'est incroyable, la vie, comment que c'est. Et donc, cette femme, elle a déjà été mariée ou jamais?
Tout à fait, exactement, oui.
Donc, ça s'est fait. Elle habitait où? Ici, en France?
Oui, tout à fait, exactement.
D'accord. Ben, tu vois, quand les choses doivent se faire.
Je voudrais pas monopoliser.
Tu monopolises pas, parce que on a aussi envie d'entendre des.
Je voudrais vous remercier toute l'équipe. Je voudrais remercier toute l'équipe de Beurre FM qui nous donne à chaque fois toujours du bon mot cœur, tout ça et tout. Et tout particulièrement Mona qui travaille avec vous, je pense.
Oui.
Et puis voilà. Gros bisous à tout le monde. Voilà,
Mona, Hakim, le matin, c'est ça?
Ouais, et puis Hakim, toute l'équipe. je suis un papa qui est vraiment qui est un peu malheureux parce que j'ai perdu un petit peu, je suis désolé, je suis ému.
Oui.
J'ai perdu un peu les liens entre père et fils avec mon fils et ça me fait mal au cœur.
Oui, mais ça va pas durer. Ça peut arriver. Ça arrive partout dans toutes les familles.
S'il a rencontré quelqu'un, je souhaite tout le bonheur et puis voilà, quoi. Voilà.
Mounir.
Voilà, c'est tout ce que je voulais
dire. Mounir, il faut que tu écoutes aussi. Écoute. C'est rien. Dans toutes les familles, il arrive des moments où on a des conflits, voilà. Enfants, oui, parents, c'est des choses qui arrivent.
Oui,
après, ça s'arrange. Donc, il ne faut pas dramatiser. Laisse les choses se remettre en place, normalement. Ok ?
Ouais. Ok, d'accord.
Allez, bon courage. Okay, je t'embrasse
merci
fort.
Merci beaucoup, c'est gentil. Merci encore à tout ce que vous faites pour nous.
C'est normal, on est là pour vous. Voilà. Bisous, Mounir. Bonne soirée, bisous, à bientôt. Ouais. Au revoir. Eh oui, la vie, elle est faite. Fou là là. Vous savez, hein, dans la vie, c'est jamais comme on veut. Hein. Et puis bon, dans les familles, il y a toujours des conflits. L'essentiel, c'est de s'aimer avant tout. On a une pause? Non? Ah d'accord, je pensais. 01 53 48 3000. Allez, on se réveille. Vous pouvez venir parler de foot. Enfin, de foot. Pas de foot comme on l'entend techniquement parlant. Mais on est là avec Footgill pour vous répondre concernant comment vous avez vécu cette Coupe du Monde. Un mois quand même, Footgill. Un mois dans une année.
Un mois de bonheur, surtout.
Un mois de bonheur. Ah oui, vraiment.
Malheureusement, c'est fini par une tristesse.
Est-ce que vous l'avez abordé?
Oui.
Dans les engagés. Parce oui. que Footgill est journaliste, il accompagne Karim Zeribi tous les vendredis.
Kim et Mona aussi.
De 10h à midi. Et Kim et Mona le matin, la matinale.
Je suis avec Mohan le dimanche aussi.
Et Mohan le dimanche. Et il est encore là. En fait, comment vous expliquer? C'est lui qui a les clés de la maison.
Non.
Il ouvre le matin, il ferme le soir. Voilà, comme ça, c'est clair.
Non, c'est un pur plaisir d'être avec vous. Parce que quand on est bien entouré par des gens qui sont positifs, une direction qui te donne l'opportunité de t'exprimer et surtout d'essayer de polir tes connaissances, bah, pourquoi pas. Moi, en tout cas, s'il y a un truc que je dois dire à l'antenne, là, et le monsieur qui était passé bien avant nous, même s'il est triste, mais remercie la direction, bah, je dirais la même chose parce que je ne remercierai jamais assez la direction de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et pour les auditeurs, nous on est là, on est fidèles et on le sera toujours pour eux. Et je me permets juste d'ajouter un truc, Vanessa, si tu le permets.
Vas-y, c'est chez toi.
C'est juste pour le monsieur qui nous a appelé tout à l'heure. Il faut savoir que c'est difficile. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie, mais comme le dit le vieux dicton, après une tempête, il y a toujours le soleil qui pointe le bout de son nez et qui commence à illuminer nos journées. Et j'espère que ça sera le cas pour lui. Je sais que c'est difficile de perdre quelqu'un. Parce que ça nous rappelle constamment que la vie ne tient qu'à un seul fil. Perdre quelqu'un, c'est une chose anodine, malheureusement, dans cette vie. Mais bon, personne n'est éternel. Mmh. Mais il doit savoir que ce n'est pas la peine de culpabiliser. Si le monsieur nous entend, je pense que ça ne sert à rien de culpabiliser. Bien au contraire, il faut essayer de se relever, de passer à autre chose et d'essayer de trouver un peu de baume au cœur. Et je pense que sa femme, même si elle nous a perdus, que Dieu ait pitié de son âme et qu'il lui réserve. Et que le bon Dieu fasse en sorte qu'il lui réserve le plus beau logis de ce monde qui est le paradis. Et j'espère qu'il pourra se relever parce que sa femme sera très contente aussi de là où elle est, de le voir quand même debout et de profiter de cette vie et d'essayer de renouer contact avec
ses enfants.
Ses enfants.
Surtout.
Voilà.
Et puis on est content qu'il refasse sa vie parce que c'est comme ça. Enfin, qu'il refasse sa vie. On ne refait pas sa vie, on continue sa vie. Différemment, mais on la continue.
Exactement.
Parce que c'est comme ça, c'est la loi de la nature. On n'est pas fait pour vivre seul. Parce qu'il semblait un peu culpabilisant en disant « Oui, j'ai... Voilà, je suis avec quelqu'un, mais oui, mais tu ne trompes personne. Elle est plus là. Et quand on n'est plus là, c'est comme si on a existé, mais on n'existe plus. Donc on ne trompe pas quand on n'est pas là. Donc il ne faut pas culpabiliser. Ça, c'est important.
Et il faut passer à autre chose, surtout au plus vite, parce que là, on le voit très triste, on le ressent, et on lui souhaite beaucoup de courage, de bonheur, et surtout, espérons que les jours qui arrivent fasse en sorte que la lumière du ciel et du bon Dieu illumine ces journées.
Et puis à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, surtout. Vraiment. Alors, on avance. Eh bien, on a Khalid, on a Azoul aussi. Et les autres, réveillez-vous. 01 53 48 3000. Alors, je regarde, je ne vois pas encore les joueurs. Moi, j'aimerais bien que les joueurs... Tu ne crois pas qu'ils iront pas vers le public? Non, attends, plus de 10 000 quand même. Il ne faut pas exagérer. S'ils le font pas, là, tu vois, je serais déçu. Faudil, la vérité. Tu connais mon franc-parler.
Oui, oui.
Wallah l'adim. Si les joueurs ne descendent pas dans la foule, on leur demande pas d'aller rentrer dans la foule. Mais derrière les barrières, au moins, des petits messages, voilà, faire acte de présence par respect pour leur public.
Exactement.
Qui les attend depuis qu'ils les ont suivis depuis un mois. Et là, il y a des jeunes qui sont en train de rêver là ce soir.
Et qui sont là depuis
16 heures. Donc, s'ils ne descendent pas, non.
C'est un manque de respect énorme.
Ah espérons ouais, là,
qu'ils descendent. Mais c'est un peu difficile aussi pour les joueurs, Vanessa, parce que là, nous, on peut se permettre de dire n'importe quoi ou de donner notre avis. Mais il faut savoir que les joueurs, c'est très difficile pour eux, surtout après une défaite comme celle-là.
Oui, c'est vrai, mais...
Espérons qu'ils vont juste descendre pour au moins voir les supporters et les remercier de cette ferveur.
Voilà.
Parce que même s'ils ont perdu... Il faut savoir que tous les Français étaient derrière eux.
Ben regarde, la preuve, ils sont plus de 10 000 à les attendre. Donc non, le public les suit, le public n'a pas tenu compte de cette défaite pour eux. Pour eux, ils veulent célébrer les Bleus là ce soir. Donc leur équipe nationale, Les gens sont heureux de retrouver leur équipe nationale. Et la plupart, c'est des très jeunes. Voilà, c'est leur première Coupe du Monde. C'est leur premier mondial. Donc, ces jeunes ont besoin de voir leur joueur de près. C'est important. Vraiment, il faut clôturer ce rêve. C'est très important.
Je pense qu'on aura l'occasion.
Moi, s'ils le font pas, je serais déçu.
Non, je pense qu'on aura l'occasion de voir le capitaine de l'équipe de France sortir pour saluer et remercier ces supporters qui étaient venus de 16h et qui sont là malgré dans ce
match. 16h, regarde, c'est des gamins, c'est.
Malgré ce froid et tout.
Non, maman, ils descendent tous, la vérité. Non, ça va, attends, il ne faut pas exagérer non plus. Oui, ils sont perdus. Mais bon, les jeunes, la preuve, les supporters, ils leur en veulent pas. Bien au contraire, ils les soutiennent. Donc, je veux dire, bon, la moindre des choses, ce serait de descendre et d'aller vers leurs fans. J'ai plus de voix, hein. Une petite pause, c'est ça? Allez, on marque une pause et on revient avec Khalid. Et les autres, on vous attend. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, sans langue de bois, au 01 53 48 3000. Allez, allez, on nous appelle là maintenant. Hein, on vous attend. Remplissez-moi ce standard que je ne saurais voir comme ça avec des cases vides. On a Khalid qui nous appelle de Paris. Bonsoir Khalid.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Khalid.
Merci à toi, merci.
Je t'en prie.
Tu parlais du grand ou du brillant Mbappé, je pense à sa maman, Faïza.
Faïza, bah ouais.
Il doit être triste, sa maman, qu'il a élevé seul, je devrais le rappeler quand même aux gens.
Papa.
Pas tout le temps,
ah,
hein.
Ils sont séparés.
Bon, on va pas rentrer dans le détail.
Ah, je savais pas qu'ils se séparaient. Ouais. Ah,
bah, c'est ce que j'ai cru lire à droite, à gauche, après, ça vaut ce que ça vaut. Bref,
ouais,
la maman doit être un peu, voilà.
Ouais, tu peux, hein.
Ouais. Ah et là, je pensais aux Champs-Élysées.
Tu savais, ouais, ils sont séparés. Ah, faut dire la confirmation. Moi, je ne savais pas. Vous
l'avez déjà. Oui, si, je savais. Si. Bon, enfin, elle a élevé seule, hein, cette dame. Donc, enfin bon. Après, elle n'est pas seule, mais bon, ce soir, elle est peut-être un peu seule avec la défaite du fiston. Mais bon, en même temps, Vanessa, entre nous,
ouais.
C'est triste, mais il n'y a plus malheureux qu'eux. Sur le plan financier, ils sont quasiment millionnaires en euros tous. Donc. Alhamdoulilah, tout va bien.
Il y a pire quand même. Il y a plus pire. Oui, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Donc
c'est pour ça que je disais, ce serait bien qu'ils descendent, voir, je sais pas, se rapprocher un peu du public. C'est des jeunes.
Oui,
il y a des gamins de 15 ans, de 16 ans. Alors, c'est leur première coupe. Ils rêvent, là. Ils rêvent. Ils sont venus depuis toute l'après-midi.
Je crois que, Vanessa, si ça dépendait que d'eux, je suis persuadé qu'ils iraient. Mais je pense que pour les problèmes de sécurité, une foule, on sait jamais où. Il n'y a rien qui peut arrêter une foule. Par passion, hein.
Non,
mais ça
je peut disais, déchaîner l'envie je disais de toucher. Derrière les barrières, il y a beaucoup de policiers. Hein. Derrière les barrières.
De policiers, ouais.
Les barrières, mais le bête, tu vois.
Mais ça m'a rappelé une anecdote que tu connais très certainement, Vanessa.
Mm-hmm.
C'était lorsque Khaled avait sorti son disque Didi, je ne sais pas si tu te souviens. Ah
bah, bien sûr,
Alors, lui ne connaissait pas sa notoriété. Il n'imaginait pas sa notoriété mondiale,
ouais.
Puisque le clip avait fait le tour du monde.
Ah, oui.
Et il s'est rendu à Calcutta.
Ah ouais.
Donc en Inde, pour un concert, parce qu'il avait fait traduire la chanson en hindi, et il arrive à Calcutta, bon lui arrive de façon anonyme, quoi. Il y avait un concert prévu le soir, les douaniers l'ont reconnu, le téléphone arabe ou indien fait le tour de la file,
ah ouais.
Et alors ce qui arrive, il arrive un truc incroyable, il arrive à son hôtel, et là, sur la place de Calcutta, il y a 100 000 personnes. Bon, en Inde, c'est normal. En Inde, c'est comme à Paris, 1000, puisqu'ils sont quand même 800 millions, 1 milliard.
Ils sont nombreux, oui.
Et alors, ça devient terrible parce que le gouverneur demande à Khaled de sortir au balcon, comme le pape, de l'hôtel pour saluer la foule et la calmer parce qu'ils allaient dévaster le centre-ville. Et Khaled est sorti. Je t'assure, c'est une anecdote vraie.
Oh.
Sauf que sa modestie fait qu'il la raconte pas. Moi, j'ai eu ça dans un reportage de l'EPRA, donc un truc officiel, le mec qui était quasiment sur place.
Il était le premier surpris, à mon avis, premier étonné.
Ah oui, de sa notoriété.
Ah, Khaled, parce qu'il est d'une humilité phénoménale.
Exactement,
hein.
Il ne raconte pas, il ne le dit pas.
Non, ouais.
Alors, il sort avec le gouverneur, qui est une espèce de ministre local, une espèce de préfet, et il salue la foule, et quand la foule l'a vu, ça se calme et ça se disperse. Donc c'est quand même, non, je crois que c'est un des seuls chanteurs, on va dire, que je connaisse, qui a eu un succès pareil, à part les Beatles et d'autres, mais lui, c'est exceptionnel.
Extraordinaire.
Et pour revenir à ce que tu disais, qui me semble essentiel, c'est le côté, le football, c'est devenu une espèce de religion.
Ah, ouais. Ah bah tiens, ils sont en train de sortir sur le balcon, faire des gestes de la main. Donc il y a Didier Deschamps avec, comment il s'appelle ? C'est pas Loris ou je sais plus. Enfin, moi je vais dire n'importe quoi maintenant. Parce que le nom des joueurs...
Le gardien de but alors, le grand là ?
Je crois que c'est lui, hein, je sais pas. Ouais.
Voilà, moi, je voudrais avoir Deschamps. Une pensée pour l'équipe du...
Ah ben, ils arrivent à 1-1-1. Il y en a 3, Didier Deschamps au milieu. Je ne peux pas vous dire, je connais donc. Mes yeux commencent à fatiguer à cette heure-ci. Faudil.
C'est aussi connaisseur que moi.
Bah, écoute, Faudil, il connaît. Alors, donc, il va nous... C'est lui qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, Faudil.
Là, on commence à voir les joueurs de l'équipe.
Ah bah, ils arrivent.
Ils commencent à sortir. On voit Raphaël Varane. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui est sorti quand même saluer cette équipe, ses supporters. Et il y a Jules Koundé avec eux, Guendouzi, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. On voit pas la totalité, malheureusement, des joueurs de l'équipe de France. Peut-être ils vont venir dans quelques minutes. Et on voit quelques joueurs qui arrivent aussi derrière, mais on voit pas parce qu'il n'y a pas un bon plan. Mais en revanche, il y a six joueurs de l'équipe de France qui sont sur le balcon.
Ouais. Sur un balcon, il y a une autre aile.
Pour 24.
Il y a une autre aile sur l'autre.
J'aurais bien aimé aussi voir un Kylian Mbappé qui arrive ou l'entraîneur de l'équipe de France. Peut-être ils seront tout à l'heure sur le balcon. C'est une belle image quand même.
Ah bah c'est pas Mbappé.
C'est une bonne communion avec.
C'est pas Mbappé là.
Non, c'est pas Mbappé pour l'instant.
Sur l'autre balcon, non. À droite. L'image, elle est pas figée.
Ils sont sur l'hôtel Virgin de Gaspar, le grand Virgin,
là. C'est Mbappé, là, ouais.
Sincèrement, chapeau
Mbappé
pour
Mbappé à côté de Didier Deschamps.
Ouais, chapeau pour la Coupe du Monde qu'il nous a proposé et chapeau pour la finale.
Voilà, ils sont quand même sortis faire un petit coucou.
Exactement.
Et comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est peut-être pour la sécurité.
Ils sont sur le
ils sont sur le balcon.
Grand Victor Saint-Germain, c'est ça, le grand.
Sur le balcon de l'hôtel.
Grand Victor Saint-Germain, tout en haut.
Comment s'appelle cet hôtel
encore, non?
C'est le Grand Victor Saint-Germain, non?
Non, c'est oh là là.
C'est là qu'il y a une terrasse, il semble.
L'hôtel Place de la Concorde, mais c'est l'hôtel. Non, oh là là, comment il s'appelle? Ça porte un nom, cet hôtel.
Non,
hein, je vais vous dire.
Dans un hôtel.
Donc c'est le Grand Victor Saint-Germain, non?
Non, ils sont dans la Place de la Concorde. Regarde, c'est
l'hôtel. Oui, c'est Place de la Concorde, mais c'est l'hôtel.
Ah oui, c'est l'hôtel Crillon. C'est
Crillon.
C'est le Crillon.
Le Crillon.
Ah oui, je confonds bien avec
le. Comment il s'appelle? Michael Jackson tenait son fils, si tu te souviens. Ça avait fait tout un truc.
Ah non, ah oui, c'est vrai qu'il a tenu au balcon suspendu avec la fille Elvis Presley.
Crillon,
c'est
vrai, exactement.
Crillon, exactement.
Voilà, c'est ça.
C'est là que Thierry Leluron est mort aussi, si on veut faire le tour des choses.
Ouais.
C'est là qu'un ami a rencontré Ben Bella à l'époque et qui a dit c'est Ben Bella, c'était un géant parce qu'il faisait quasiment un 2 mètres quasiment. Il s'est passé des choses au Crillon.
Crillon, ouais, c'est vrai. C'est un hôtel historique. Ah ben ils sont tous ils sont tous là.
Ouais, ils sont bien logés.
Ils applaudissent leur public. Bon, c'est bien qu'ils soient sortis quand même, hein. C'est bien. Mais je pense qu'ils allaient le faire.
Ils auront l'occasion de rencontrer la foule.
Sinon, ils auraient déçu.
Ils
auraient déçu.
Interviews.
S'ils ne l'avaient pas fait.
Mais ça, ce qui était intéressant, c'est ce que tu disais donc sur la religion, là, le football qui est devenu une religion mondiale. C'est un peu l'opium du peuple aussi maintenant.
Ah oui, c'est carrément.
Et on peut s'interroger, même si ce n'est pas une façon de gouverner maintenant aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui. On dirait que dans le football, on perd la raison, en fait. Il y a une passion, comme c'est une vrai. Forme de religion. En fait, les gens sont habités. Le ballon a remplacé et a guéri un peu de certaines frustrations ou des blessures.
Oui, c'est une forme de thérapie.
Nos malheurs, nos petites misères.
C'est une forme collective. De thérapie collective.
C'est vrai, c'est vrai.
De toute façon, on a toujours dit que le foot était fédérateur. Ça dit bien ce que ça veut dire.
Oui, exactement.
Mais là,
parfois, lorsque la politique divise, le football réunit.
Oui, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ça, justement, de plus en plus? Parce que le monde se divise, justement. Là, on n'est plus des citoyens unis d'un même pays, par exemple. Je parle de, par exemple, la France, parce que c'est notre pays. Mais, nous sommes des communautés. Le communautarisme est en train de prendre beaucoup de terrain. Et le foot, justement, eh bien, limite. Cette hémorragie, j'ai envie de dire. Parce que le communautarisme est quelque chose de très dangereux, c'est excessif. Quand il est vécu, quand il est,
quand il est à l'excès.
Tout ce qui est excessif, de toute façon. Mais le communautarisme, quel que soit le communautarisme, je trouve qu'il est dangereux. Parce que le communautarisme, eh bien, c'est un peu comme...
comment dire ?
Bah, regarde, je vais aller très 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 loin là. Hein. Je parle pas du communautarisme juste culturel. Genre, on se retrouve pour voilà pour la fête, pour faire des voilà. Mais là où ça peut être dangereux, quand tu regardes un petit peu dans le monde, plus loin dans le temps, ça peut créer des guerres, ça peut créer des hostilités, ça à force de diviser. De religion, ben on le voit.
Par exemple,
si toi tu ne rentres pas dans ma, c'est ce qu'on met dans la tête des gens. Si tu n'es pas de ma communauté, si tu crois en une autre religion, un autre dieu, donc tu es mon ennemi et tu es un mécréant, etc., etc. Donc l'ennemi à abattre. Donc c'est très facile. C'est ce qui s'est passé avec Samuel Paty. C'est ce qui s'est passé. On l'a vu avec d'autres, etc. Les attentats, etc. Alors donc et ça c'est valable. Pour toute communauté extrême. De toutes les époques,
bien sûr,
voilà.
Bien sûr. En 1492, lorsqu'il y a la Reconquista, entre parenthèses, avec Isabelle, dite la catholique, les juifs et les musulmans sont jetés alors qu'ils ont construit l'Andalousie. Mm-hmm. Ils ont bâti quasiment une grande partie de l'Espagne avec une histoire culturelle et économique aujourd'hui, parce que l'Andalousie rapporte des milliards à l'Espagne. Les gens viennent visiter l'endroit du monde entier.
C'est vrai.
Et donc, ces gens-là ont été dit, vous n'êtes pas chez vous. Alors qu'ils ont vécu quasiment là presque 8 siècles, on leur a dit, vous n'êtes pas comme nous, on leur a fait la guerre. Donc, c'est vrai, comme tu dis, que le communautarisme, depuis quasiment la nuit des temps, on fait le malheur du monde. On fait le malheur du monde. Et l'union faisant la force, des gens instrumentalisent ces différences, en font des fiertés, en font des idéaux, une idéologie, pour conserver les pouvoirs et se dire je suis supérieur à toi au nom de ma religion.
Et d'une politique aussi. Et à la tête de chaque communautarisme, je dis bien, je ne parle pas de communauté, hein, c'est différent, de communautarisme, encore un nom qui se termine par isme, eh bien, il y a souvent des gourous. Eh bien, ces gourous qui sont planqués, on ne sait pas où, et aujourd'hui c'est très facile avec les réseaux sociaux, Internet, etc.
Ah oui.
Eh bien, ceux-là, eh bien, qui dirigent les manettes, tu vois, comme un marionnettiste, tu vois, un marionnettiste.
Sur les ficelles voilà, dans l'ombre.
Voilà, les ficelles dans l'ombre. Eh bien, si on veut aller encore plus loin et voir le réel danger, eh bien, souvenons-nous de ce qui s'est passé juste avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que le gourou, c'était qui ? C'était Hitler. Les gens avaient voté pour lui, en toute démocratie, hein, puisqu'il y a eu un vote démocratique.
Transparent.
Voilà, les gens l'aimaient bien parce qu'il avait peut-être un bon bagout, etc. Et les gens croyaient en lui. Mais il s'est avéré que c'était un monstre. Voilà. Et ce type, eh bien, après, eh bien, on a bien vu qu'il y avait ce repli, ce communautarisme, extrême, mais d'un extrémisme.
Il y a eu la aryenne, en fait, les aryennes.
Voilà, j'allais en venir. Voilà, c'est ça. Mais oui, absolument. Parce que ça parlait de race. Eh oui, ben c'est ça.
De race supérieure, et donc d'élimination des mauvais ou des autres qui seraient des bâtards, entre parenthèses.
Oui.
Et il fallait les exterminer, les enlever de la surface de la Terre. Ça a commencé au départ par montrer du doigt les juifs, on a vu ce que ça a fait.
Il y a du bruit autour de toi, Khalid. Il y a beaucoup de bruit autour de toi. Je sais pas
là,
ce que c'est.
Là, ça va mieux, là.
Tu as le haut-parleur ou qu'est-ce que c'est ?
Non, pas du tout, non. Là, ça va mieux ?
Ouais, parce qu'il y avait un boucan, je n'ai pas compris.
Ah, d'accord.
Ouais. Ok, donc.
Ensuite, il y a eu les communistes, les homosexuels, les tziganes.
Oui.
En fait, tout ce qui représentait une différence, mais qui était une différence positive, ils faisaient partie du tissu social ou national.
Ouais.
Il fallait les éliminer, c'est ce qu'il y a eu. Et partout, on a cultivé, on a laissé faire par l'acheter. Ces gourous, qui sont en général aussi manipulés de très très loin par d'autres, parce que Hitler n'est pas arrivé tout seul, évidemment, on ne va pas faire le cours de l'histoire.
Mais lui,
ça a été l'idéal, parce qu'il avait une grande gueule, comme on dit. C'était un hystérique, un acharné, puis c'était un tribun. Mmh. Il avait compris la faiblesse du peuple, c'était de le valoriser, de le mettre dans un état de supériorité absolue, qui a eu droit et de mort sur quasiment une grande partie de l'Europe, quoi.
Oui.
Et aujourd'hui, si le sport arrive à recréer ces moments de grande fraternité, de véritable de confraternité, ça peut lutter contre les communautarismes, comme tu dis. Je pense qu'il faut favoriser ce genre de compétition et d'élan d'amitié mondiale entre les pays pour peut-être créer une citoyenneté quasiment mondiale, une espèce de conscience mondiale autour de ce qui nous rassemble, de ce qui nous donne du bonheur, contre ceux qui manipulent, ce que nous divisent sur nos petites différences, parce que de l'extérieur, un être humain, moi je suis incapable de donner sa religion, ou peut-être même son origine, à parler de couleur de peau ou de cheveux. Pour moi, c'est d'abord un être humain qui est mon égal, du moins je pense être son égal, et je me bats pour éviter d'être manipulé en disant que je suis supérieur ou inférieur à lui. J'écoute pas en fait les sirènes et ceux qui sont là pour nous faire peur. Je bouche les oreilles,
oui.
J'ouvre un livre.
Ah oui.
Ou je mets de la musique.
Mais tout le monde n'a pas cette présence d'esprit d'ouvrir un livre, de prendre du recul.
C'est le rôle de ce que tu fais,
Oui,
mais... C'est ce que tu fais tous les soirs.
Oui,
c'est ce que fait Kim le matin.
Malheureusement,
Karim Zeribi ou les informés et d'autres médias aussi font ce travail d'unir les gens envers et contre tout. C'est dur. C'est très, très dur. Mais c'est ce qui fait que tous les soirs, malgré, je t'entendais vendredi, malade, et que tu es venu à la radio et assuré, etc. Et je dis, il faut quand même avoir une vraie motivation, aimer ce qu'on fait, et surtout, alors un truc, se sentir utile. Utile dans la vie, c'est le vrai moteur en vérité.
Ouais.
Servir à ceux qu'on aime, ça donne un sens à notre vie, mais en même temps, l'utilité en fait. C'est peut-être ça le sens de l'existence. C'est que chacun en est un maillon, mais là, je défonce des portes ouvertes là. Mais c'est peut-être bien de redire les choses.
Mais non, tu dis des choses dont on a besoin de les entendre. Beaucoup ont besoin, tu sais, des fois, faut répéter. Regarde nos mamans, dans leur éducation, elles auront dû répéter des milliards de fois des choses
pour
qu'on comprenne et qu'aujourd'hui on retient et qu'on transmet à nos enfants. Mais si elles ne nous l'avaient pas répété à plusieurs reprises, l'éducation, on serait peut-être passé à côté, hein. Faudil voudrait dire quelque chose, je crois.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Khalid de tout ce qu'il dit. Je l'ai écouté attentivement et surtout ce qu'il dit à propos de toi, parce que rappelle-toi ce que je t'avais dit récemment. J'avais dit heureusement que tu es là le soir parce que tu donnes l'opportunité à des gens qui en ont besoin de vider leur cœur. Et même, je sais que de temps en temps, nos chers auditeurs le savent pas, mais de temps en temps, je sais que tu as des imprévus familiaux, des imprévus familiaux personnels, ou même des empêchements, mais ça t'empêche pas d'être là. Heureusement que t'es là parce que tu leur donnes la parole. Il y a des gens, malheureusement, nous vivons à une époque où les réseaux sociaux ont tellement hypnotisé les gens au point où ils se parlent plus. Il y a un grand philosophe qui avait dit « Tout le monde est connecté, mais personne ne se parle ». Je pense qu'il a tout à fait raison. Et heureusement que...
Pierre Rabhi, je pense qu'il a dit ça.
Comment ?
Pierre Rabhi ?
Je pense que c'est Pierre Rabhi qui avait dit ça.
Je pense c'est possible, ça me ressemble.
Je pense oui. Et heureusement que Vanessa est là, parce que c'est pas parce que c'est ma collègue que je vais me permettre de lui jeter des fleurs devant elle, mais heureusement, parce que je pense que la plupart des auditeurs de la radio et même les fidèles auditeurs de l'émission Confidence seront d'accord avec moi, parce que ça te permet de vider ton sac, et en plus ce qui est bien, c'est que tu les écoutes et que tu te permets même de les conseiller. Et moi, de temps en temps, j'écoute, j'ai des échos et tout de la part des auditeurs sur les réseaux sociaux qui me disent que Vanessa, c'est plus qu'une animatrice, c'est une psychologue. Et je pense que même avec ton vécu aussi, tu te permets quand même de donner des bons conseils à des gens. Peut-être pour toi, c'est quelque chose de très simple, mais pour certains, c'est beaucoup, beaucoup. Ça représente beaucoup le fait de t'entendre le soir. Et je peux te donner une toute petite preuve de l'amour des auditeurs que tu as. Tu n'as qu'à te tourner directement pour voir le standard qui est blindé, où il y a des gens qui t'attendent juste pour te parler. Et pourtant, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent se connecter sur les réseaux sociaux. Ils peuvent faire plein de choses. Mais ils préfèrent t'écouter. Et cette émission, elle dure depuis combien de temps, Vanessa ?
Je compte plus les années. Hein. Ça fait, on est dans la deuxième décennie, là.
Exactement. Et en tout cas, tout ce que tu fais là... Sincèrement, moi, je suis là depuis... un an et demi, voyons, voilà, un an et demi, et quand même, je tiens à te remercier, parce que t'es quelqu'un de très authentique, tout le monde ici à la radio, Kim, Mona, Philippe, je vais pas citer de nom, sinon j'ai commencé à faire des envies, mais sincèrement, ce que tu fais, c'est chapeau, et tout le mérite te revient, parce que, comme je t'ai dit, il y a des gens qui sont dans leur appartement, qui n'ont pas d'amis, parce que c'est difficile de se faire
compliqué.
Des amis. C'est difficile aussi de faire confiance de nos jours, parce que les gens maintenant n'ont plus confiance, ils préfèrent quand même se renfermer sur soi
oui.
pour
pour essayer de trouver des solutions. Et quand on se referme sur soi automatiquement, on plonge dans la dépression. Et ton émission, c'est un remède.
Bah, ça me fait plaisir. Ce que
Khalid serait d'accord avec moi aussi.
Merci en tout cas, Foudil, pour ce beau témoignage. Khalid, tu es toujours là, Khalid?
Oui, je suis là, j'écoutais.
Bah, écoute, je suis très touchée par mon collègue, là, je reste sans voix. Mais les gens ont besoin, c'est une forme d'exutoire. C'est-à-dire que les gens, c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a plus d'oreilles. Et ça, je le répète souvent. Il y a de moins en moins, je ne sais pas qu'il n'y a plus d'oreilles, heureusement, il en reste toujours, mais de moins en moins d'oreilles pour écouter dans la vie.
Il y a des oreilles. Il y a des oreilles qui te coûtent 200 euros. Un psychologue.
Tu sais, Vanessa.
Oui.
Vanessa, deux petites choses.
Oui.
Foudil a terminé, je pense, non ?
Oui, vas-y.
Ah, oui. Il y a une chanson que tu joueras peut-être un jour et que tu connais, celle de Gilbert Bécaud. Celle de Brel, voir un ami pleurer, qui parle d'amitié et d'écoute. Mm. Mais il y a celle de Bécaud, là, où il dit un peu d'amour et d'amitié. C'est une chanson sublime qui dit beaucoup sur le besoin de lutter contre l'indifférence.
Ça fait l'indifférence,
je crois, cette chanson.
L'indifférence, ça te tue à petit feu.
Elle te tue à petit feu.
L'indifférence. C'est vrai, cette chanson, en plus, il la chante avec... il vibre.
C'est merveilleux.
Il vibre, il chante avec ses tripes, il la vit. Donc, il te la fait vivre. Tu es dedans, quoi.
Ah ouais. C'est un type d'exception.
Ah ouais, complètement.
Il a fait une belle chanson aussi qui parle... Les gens ignorent peut-être l'autre chanson de Bécaud qui s'appelle Mustapha. Et il parle d'un immigré, on va dire du Maghreb, et il en parle avec une espèce de fraternité. Oui. On revient à la fraternité extraordinaire sur Mustapha et ses Bécaud, quoi. Sa voix et son énergie, enfin tout ce qu'il
représentait. Ah bah lui, de toute façon, c'était... Ne pars pas, Khalid. Je te garde, on va faire un débat tout à l'heure. On a Anis qui nous appelle d'Aulnay-sous-Bois. Bonsoir, Anis.
Bonsoir, Vanessa.
Bienvenue, Anis. Comment vas-tu?
Ça va, alhamdoulilah, ça peut aller.
Eh ben, alhamdoulilah, très bien. Qu'est-ce que tu fais là dehors? Tu as été voir les joueurs?
Non, j'ai pas le temps pour voir les joueurs.
Ah bon, tu travailles de l'argent. Tu travailles? Dis-moi, tu travailles?
J'ai fini.
Ah, t'as fini, hein, courageux, Texaha. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour terminer si tard?
Ah, je travaille dans le levage, moi. Je monte des grues à Tours.
On m'a dit donc quel courage. Voilà, moi des bonhommes comme ça, franchement, je vous admire. Il y a des comme ça. Hein. Voilà.
Ah, j'aimerais bien que ma femme me dise ça tous les soirs quand je rentre.
Ben, tu enregistres l'émission, tu lui fais écouter. Elle t'admire, ta femme, elle te le dit pas parce qu'elle veut pas non plus te gonfler la tête et tout. Mais je suis sûr.
La fierté, c'est ça.
Je suis sûr qu'elle est fière de toi. Je suis sûr qu'elle t'adore.
Bon.
Dis-moi.
Bon, je tenais à faire. Comment ça s'appelle? Une petite dédicace personnalisée.
Tu peux, il n'y a pas de souci.
Ah, bon, alors ça va être à mon gourou, à mon dictateur, Allah Yarhamah, qui est disparu depuis un an, là.
C'est qui?
Ma mère.
Ta maman, Allah Yarhamah, Hussein Ali.
Merci, c'est gentil.
Qu'elle repose
en paix. Voilà, qu'elle repose en paix et je t'embrasse, maman.
Ah oui.
Ça, c'est fait. Une deuxième chose.
Oui.
On n'en parle pas souvent, mais ce sera un sujet qui me tient à cœur aussi.
Eh ben, vas-y.
Mes amis des PMR.
C'est qui?
Les personnes à mobilité réduite.
Ah oui.
Voilà. Oui. J'y tiens aussi parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en fauteuil roulant.
Oui.
Alors, je tenais à leur faire une dédicace.
Ah ben, très bien.
En passant par la Courneuve, en passant par Sevran, sans qu'on le tronc, Abdelkader Kassin-Azet, Rafik Bebelgum, alias Mister PS5. Voilà, ça c'est fait.
Ah ben, écoute, on les embrasse très fort.
C'est gentil.
Tous tes amis.
Puis, oui. Vanessa.
Oui.
Je vais me dire une chose.
Dis-moi. Dis-moi, Anis, dis-moi. Je suis tout ouïe.
Je t'aime, Vanessa.
Moi aussi, je t'aime. Très fort, même. Je
ça
t'aime.
Ça a été dit, c'est fait. Jalouse ce soir,
mais non, tu lui dis, je l'aime comme ma mère. Et voilà, ta maman, elle repose en paix. Eh ben, tu m'aimes comme ta mère, alhamdoulilah yarabbi. C'est important de dire, tu sais, aujourd'hui...
C'est pas ça chez nous. Tu connais les Algériens comme
ça. Non, regarde.
La possessivité.
Non, ta maman, tu sais, quand elle est vivante... On est gêné, on peut pas dire à sa mère je t'aime, c'est vrai ou pas? Il y a cette pudeur. C'est vrai ou pas? Même nous les femmes on le dit pas.
On le montre à ma mère,
elle sait que je l'adore. Je le dis devant elle, à des gens, mais directement à des gens à côté, hein, je le dis dans la famille, je dis "Ah, j'adore ma mère, elle écoute." Pour qu'elle l'entende, je fais exprès. Mais à elle directement, j'arrive pas à la regarder en face et lui dire je t'aime. J'arrive pas.
Parce que
t'as bien à Hegda, tu vois. Mais, Anis, Maintenant qu'elle n'est pas là, ta mère, tu peux me dire que tu m'aimes. C'est un peu d'elle, ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi, je t'aime comme mon fils. Et je t'aime fort. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà.
Merci beaucoup.
Et t'as vu, Vanessa, ça veut dire j'ai raison. Il n'y a même pas cinq minutes, tu as Anis qui vient.
Mais oui, c'est mes enfants, je les aime.
Et ben.
Tout le bonheur du monde, Anis. Bonne soirée, bon merci. Courage.
Slama,
bisous, au revoir. Regarde comme ils ont du cœur. Ils pensent aux gens qui ont à mobilité réduite et tout ça. Quand tu regardes certaines chaînes là, qui nous racontent que de... franchement, arrêtez de regarder Hadok les poulaillers. Wallah l'adhim, c'est moi je les appelle le poulailler les chaînes de télé. Je vais pas les nommer, mais vous voyez ce que je veux dire. Tous les matins, tu les écoutes, t'as une angoisse. Moi, je les écoute plus, hein, c'est pas possible. T'écoutes deux minutes, t'as le cœur qui va sortir de ta poitrine. Il y a bloc sur le plateau. Tu vois rien que leur tête fermée comme ça. Musulmans, islam, t'entends. Là, en ce moment, parce que pourquoi Darmanin, le ministre de l'Intérieur Darmanin, qui fait son travail bien, et le président Macron, très bien aussi, hein, franchement, c'est un gouvernement, moi, j'ai rien contre la vérité, et qui octroie des visas aux pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, et l'Algérie, l'an dernier, hier, il était en Algérie, avant-hier, je crois, ou hier. Voilà, donc, voilà, normal, ils ouvrent et tout.
Le vendredi.
Eh ben, dis donc, rahtouf le matin.
Si, si,
ils sont là, tant, et comment, alors ils t'ont tout sorti. Le terrorisme, la dictature, les machins. Mais c'est quoi ces gens-là?
Alors.
Mais ils vivent quel siècle? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent entre soi s'enfermer entre eux? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Moi, ils m'horripilent, la vérité, hein. C'est la basse-cour. Voilà. C'est à la basse-cour, ça caca. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, j'ai envoyé des tweets, je les appelle, ils le savent, hein. Je les appelle à basse-cour.
Non, mais ce qui est bien, Vanessa, c'est qu'il y a un communiqué de l'Élysée qui explique la visite de Gérald Darmanin à Alger et la visite de Catherine Colonna à Rabat.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que, bon, je vais essayer d'expliquer brièvement ce qui s'est passé. Il y a Catherine Colonna qui est la ministre des Affaires étrangères, mm-hmm. qui est partie à Rabat le jeudi soir.
Oui.
Et le but, c'est d'essayer de régler ce litige avec les autorités marocaines au niveau des visas et surtout de la lutte contre le terrorisme. Et il y a aussi Gérald Darmanin qui a été invité en Algérie.
En Algérie, voilà.
Visiter la ville de son grand-père qui est décédé. C'est un geste de la part.
C'est magnifique.
Et juste après cette visite, Gérald Darmanin s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères qui est Alam Talah Mamala.
Oui.
Al-Mouradia.
Et avec le président Tabboune. Ah, on l'a vu en direct.
Entretenu uniquement avec le ministre des Affaires étrangères qui est Amtana Amamala. Et juste derrière cet entretien, il y a eu un communiqué qui est sorti, un tweet de la part de Gérald Darmanin qui explique la levée des restrictions des visas à l'encontre de l'Algérie. Au même moment, Catherine Colonna aussi avait diffusé le même communiqué et l'Élysée l'a confirmé. C'est aussi simple que ça.
Mais normal, quoi.
C'est aussi simple que ça.
Des accords normaux.
Il y a des accords.
Mais c'est normaliser des relations. Ça s'appelle comme ça. Je comprends pas.
Ce que certains médias ici n'arrivent pas à comprendre.
Ils comprennent.
Non, c'est ce qu'ils
arrivent. Ils comprennent comme toi et moi.
Non, ce qu'ils arrivent pas à comprendre.
Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut voir ou plus sourd que celui qui veut entendre. Ils font semblant, Yahsala.
Non, mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, Vanessa, si tu peux le permettre.
Ah, tu peux. Hein,
c'est juste un truc très important.
Mm.
On est en 2022. On est à la porte de 2023. Il faut savoir que maintenant, nous vivons dans une période où la mondialisation te permet de gagner ta vie. Un Sénégalais peut gagner sa vie à New York. Un New Yorkais peut venir investir en Algérie. C'est comme ça. C'est le monde de la
mais c'est la mondialisation, ça y est.
D'aujourd'hui. Et certaines personnes qui sont des dinosaures de la politique française, qui se permettent toujours de faire une réflexion, quoi que le gouvernement fasse. Mais il faut savoir que l'Algérie a besoin d'avoir des relations avec la France. La France a besoin d'avoir des relations avec l'Algérie. Il y a des partenariats économiques, sociaux, au niveau de la santé, au niveau du développement, au niveau des étudiants qui sont nombreux.
C'est vrai, mais ils ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que Houma, si tu veux, tout ce qui est Maghreb, ça leur donne des irruptions de boutons. C'est l'urticaire pour eux. Donc l'Algérie, l'Algérie, c'est pour eux, voilà. C'est ça qu'il faut savoir. D'ailleurs, Foudil, au début de la guerre l'Ukraine avec la Russie, on a vu sur les plateaux télé, certains ceux-là dont on parle, eh bien, la chaîne B, quelque chose s'est calmé, la vérité. Parce que dernièrement, j'ai vu, ça va, ils deviennent soft. Ça, cette chaîne s'est normalisée, tranquille.
Dès qu'il n'y a pas d'actualité en
mais
France,
t'as l'autre,
sur la carte mise.
Oui. Ah non, mais c'est tout le temps. Ah oui. Alors là, début de la guerre Ukraine-Russie, sur les plateaux, alors ça,
On a l'impression de rêver. On se dit, attends, je rêve ou là, wesh, je me pince, qu'est-ce qui se passe? Ils te disent, ils étaient dans une euphorie. Ils étaient pris dans, je sais pas, une hystérie, mais alors phénoménale. Et ils se rendaient plus compte. Tellement, si tu veux, la haine de, du bronzé, quoi, de ce qu'on est, les dérange. Donc, ce qui fait qu'ils disaient n'importe quoi, ça vociférait. Et ils disaient, oui, alors les Ukrainiens, faut leur ouvrir les portes, il faut leur ouvrir, faut les aider, alors c'était pas les migrants, c'était les réfugiés, faut les aider, faut ouvrir, il faut leur donner des logements, il faut mettre les enfants dans les écoles et de l'argent, etc., donner du travail, et ça a été jusqu'à, alors là, je veux dire, la déferlante, toi, tu croises les bras, dès qu'il y a, et tu regardes et tu écoutes, jusqu'où vous allez aller? Eh ben, ils ont été jusqu'à dire, ah oui, puis eux, de toute façon, c'est normal. Ils nous ressemblent, ils sont comme nous. Puis il y en a un, il sort, il avait plus d'arguments, tellement jusqu'au bout du mur. Il lui restait plus rien. C'est-à-dire, tous les mots du dictionnaire, ils avaient été utilisés. Mais après, à l'auche, une seule virgule. Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti? Il a dit, ils ont des voitures comme nous. C'est-à-dire que le gars, il avait plus d'arguments. Donc, il est arrivé à dire, ils ont des voitures comme nous.
Bah, c'est aussi simple. Ils ont qu'à faire un tour au Maghreb et ils vont avoir des voitures qui sont au Maghreb.
Ouais, mais c'est la méconnaissance, l'ignorance phénoménale. Mais à quel point la bêtise? Alors, s'il vous plaît, Mbabakoum, vous voulez vous abrutir? Continuez à écouter la basse-cour et la basse-cour, oui, c'est ça. Le poulailler. Cote. Moi, je leur ai envoyé des tweets. Hein. Je leur ai dit, vous êtes une basse-cour. Hein. Il y a tout. Hein. Ça caquette, ça piou-piou, ça, il y a tout. Hein. Ah, oui. Ouais. Il y a les poules, il y a les canards, il y a les lapins. La basse-cour.
Il y a juste
entre
un
eux.
Truc, Vanessa, que j'ai pas compris. C'est le fait d'inviter deux personnalités politiques pour parler du football. J'ai une question qui me taraude. Est-ce que on est dans un pays qui est la France, est-ce qu'on n'a pas des consultants ou des anciens joueurs de foot qui peuvent nous parler de cette Coupe du Monde au lieu d'inviter des politiciens?
Tu as raison. Mais c'est exprès.
On a besoin d'avoir des anciens joueurs de foot qui vont nous expliquer parce qu'il faut savoir que
cette Coupe du Monde
est suivie aussi par des jeunes.
Oui, mais nous, on le sait. Mais eux, ils s'en fichent. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Et d'ailleurs, ils sont pas très jeunes sur plateau, c'est malheureux à dire, mais bon.
Je parle des jeunes qui suivent.
Durant la demi-finale, les jours qui ont précédé le match France-Maroc, sur le plateau, il y avait, comme tu dis, des politiciens, je sais pas ce qu'ils venaient faire là. Et il y avait, alors le pire, j'ai pas compris hein, l'histoire, il y avait une psychologue. Pourquoi une psychologue? Oui, parce que après le match, je sais pas quoi, ils avaient peur, les supporters, dehors, ce qui allait se passer. Mais pourquoi un psychologue? Mais essayez de réfléchir deux secondes. Pourquoi ils ont invité une psychologue? Tout en évoquant le fait qu'il pourrait y avoir des altercations, des problèmes, dans la rue, juste après, etc. La psychologue!
Pourquoi ils invitent pas les éducateurs? Qui ont donné à l'équipe de France des joueurs comme Kylian Mbappé, par exemple, qui est sorti de Bondy. Il faut inviter ces gens-là.
Kylian Mbappé, il gagne, donc c'est un Français. Mais si... Kylian Mbappé, c'est sur les chaînes, on l'entend. Cette semaine, j'ai entendu, Français. Mais les mêmes origines, une personne des mêmes origines, avec les mêmes origines... Hein, qui va commettre peut-être un larcin ou une bêtise. Là, du coup, ça sera plus un Français.
En parlant de ça, est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier juste après le match? Les deux joueurs qui sont Kingsley Coman et Tchouaméni qui ont raté les deux pénalties, ils ont dû désactiver les commentaires sur Instagram parce qu'ils ont reçu une avalanche d'insultes.
Ah oui, ça, c'est les réseaux sociaux, malheureusement. Ça, on n'est pas à l'abri des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la bêtise, c'est la déferlante. C'est le défouloir.
Je t'ai donné juste un exemple.
Non, mais t'as raison.
Après le match.
Bah oui, mais ça suit qui?
C'est des humains quand même. Ouais. Ce sont des gens qui ont joué un match de 120 minutes à haute
intensité. Mais malheureusement, Foudil, les réseaux sociaux, c'est cruel. D'ailleurs, il y a des jeunes qui, malheureusement, font des tentatives de suicide à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'horreur. Moi, je dis, si vous pouvez éviter. Par contre, sur les plateaux télé, quoi, soi-disant, on invite une psychologue. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est même pas l'idée. Alors, on a Momo. Khalid, tu pars pas. Momo, il nous appelle d'Alfortville. Bonsoir, Momo.
Bonsoir, Vanessa.
Bienvenue, Momo. Comment vas-tu?
Merci de m'avoir pris.
Eh ben, écoute, bienvenue à toi. Je t'entends très mal, hein. Je sais pas. Éteins ta radio, le haut-parleur.
Ma radio, elle est éteinte.
Et le haut-parleur?
Le haut-parleur, je peux pas l'éteindre.
Ah bah oui, mais on va pas t'entendre. Ah bah tu vois. Ah bah voilà, on t'entend plus du tout, gars. Essaye de régler ton problème au moment où tu reviens, parce qu'on t'entend plus. Et les autres, on se réveille, hein. 01 53 48 3000. On a un sujet qui est important ce soir. On a abordé les plateaux télé où ça dit tout et n'importe quoi en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait un moment. Cette coupe du monde qui n'a pas divisé, ça pas divisé, bien au contraire, ça fait l'effet inverse et c'est tant mieux. Et toute la France s'est sentie concernée, peu importe les origines des gens, et ça c'est juste formidable en tout cas. Voilà. Et moi j'étais ravie de voir le président Macron aller auprès du joueur, parce que je trouve que il a été naturel, il est jeune, il est de sa génération, il a 42 ans je crois. Il est allé spontanément, parce que c'est un président de notre époque. On est en 2022. Alors, eux, non. Tout à l'heure, sur ces plateaux, justement, oh ben quand même, c'est pas digne de président. Ben oui, c'est qui parlait? C'était des gens plus âgés. Donc, ils avaient 75 ans, tout ça, 70 ans, qui parlaient. Mais cet homme a 42 ans. C'est un président qui est de son époque. Je veux dire, alors, quand on entend, Pompidou n'aurait pas fait ça, ou De Gaulle, ou Pompidou nous ont sorti... Mais c'est une autre époque, on n'est plus les années, je sais pas, de la caverne. Là, on est en 2022. Donc, le président Macron, c'est un jeune. Et il vit de son époque. C'est tout à fait, il a l'âge de ses joueurs. C'est tout, presque. C'est tout à fait normal qu'il aille vers Mbappé, qu'il se mette à genoux. Oui, c'était très bien. Voilà. C'était formidable. Il y avait de l'humilité. Quand il a été après, par la suite, aussi les réconforter. Moi, je trouve ça, je sais pas, j'ai trouvé ça très sympathique, très humble, pardon, de sa part. Et les autres, non, c'est pas digne d'un président. Pourquoi un président, qu'est-ce qu'il y a? Il vit sur le toit du monde, le président. Il vit sur notre planète. Le président, il vit comme tout le monde. Et sauf que le président Macron, il a compris. Il a compris que c'est, qu'il vit dans son époque. Il faut qu'il soit proche des gens. Et son attitude, moi, je la trouve formidable. Voilà. Formidable. C'est tout. Alors les autres, ils veulent le voir comme du temps de Pompidou, de Gaulle. Mais ça va pas. On n'est pas en les années 50 quand même. Je comprends pas. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Vraiment, hein. Non, moi, je sais pas vous, dites-moi. Mais moi, j'ai trouvé son attitude vraiment formidable. Vraiment, qu'il a été vers les joueurs, vers Mbappé, qu'il l'a serré dans ses bras. Je sais pas, comme un frère. J'ai trouvé le réconforter, j'ai trouvé ça formidable. C'est quand même mieux que d'avoir une distance. Parce que souvent, les présidents, ils ont une distance. S'il avait fait le contraire, ils auraient dit, il était froid, il n'y avait aucune humanité, aucune empathie en lui. Mais là, trop d'empathie, ben non, c'est pas digne d'un président, il n'aurait pas dû prendre... Moi, je lui dis, président Emmanuel Macron, faites comme votre tête vous dit, n'écoutez personne, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ils parleront. Voilà. C'est ça, la basse-cour. 01 53 48 3000. Chers amis, si vous êtes d'accord avec moi, venez me le dire en direct. Alors, on a Ezoul. Méziane, éteins ta radio, parce que c'est juste pas possible. Hein.
Oui, allô.
Bonsoir Méziane, bienvenue. Oui. T'as la radio, le haut-parleur.
Ça y est, j'ai éteint, Vanessa.
Oh, j'aime bien, on dirait un élève qui parle avec sa maîtresse d'école. Non, maîtresse, ça y est. Au piquet, allez, au piquet.
Ça y est, j'ai éteint.
C'est un fantasme chez toi ou quoi? Attention, parce que dis donc, ça peut déraper. Hein.
En tout cas, je vous passe le grand bonjour à tous. Les amis du soir, bonsoir.
Ben écoute, bonsoir à toi aussi. Merci.
Je voudrais quand même faire un petit message à Faudil.
Oui.
Faudil, tu diras à Karim Jerébi que je suis pas content de lui.
Pourquoi? Il est super, Karim.
Parce que attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir une phrase. C'est catastrophique, Vanessa.
Vas-y, vas-y. Tu parles de mon ami. Attends, c'est un ami, Karima. Moi, j'aime pas qu'on parle de lui.
Non.
Vas-y.
Tu diras à Karim Djerébé que Méziane n'est pas contente de toi. Parce que tu travailles dans une télévision de racistes.
T'arrêtes de dire ça. Déjà, non, on n'a pas le droit de dire ça. Méziane, attends. Attends, écoute. T'as pas le droit de dire ça. Je peux, j'ai même pas le droit de te laisser dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu me mets là, vraiment, en porte-à-faux, là. Hein, tu vois, ça, c'est pas bien ce que tu me fais.
Ah ben, je retire, ça y est.
Voilà, donc c'est où tu peux. Voilà, tu retires ce que tu veux
vous
dire.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Voilà. Donc,
vous n'êtes pas raciste, mais vous êtes intolérant.
Alors. Alors, écoute, Méziane.
Écoute, moi, intolérant, il passe mieux,
attends,
non?
Attends, ça passe, là, ça va.
Bon, eh ben, écoute, il suffit de savoir
attends,
jouer avec
Méziane,
les mots.
Attends, Méziane, la vérité. Oui. Heureusement que Karim Zeribé est là-bas, à Nankolal, je te promets. Parce que c'est lui qui fait... Ouais. Tu l'as entendu hier?
Non.
Ah, il faut écouter
non.
le...
Non, mais j'ai entendu plusieurs fois sur cette chaîne, là.
Écoute.
Cette chaîne que tu connais.
Écoute, il faut écouter le... Écoute, il faut écouter...
Tu trouvais qu'il faisait caution.
Il donne
caution à l'arabe de service, non, j'aime pas ça.
Avant-hier, écoute le podcast, tu vas te régaler. Moi, Ah ouais, moi je lui dis à Karim, je lui dis, franchement, je suis content. Non, heureusement qu'il est là-bas. Écoute le podcast. Tu vas te régaler. Ce que tu viens de dire, tu vas dire bravo à Karim Zeribi. Écoute le podcast, c'est tout ce que je te dis.
Non,
le
mais
podcast.
C'est un homme intelligent.
Le podcast.
C'est un homme très intelligent.
Eh ben, attends, écoute-moi. Tout à l'heure, quand j'ai dit par rapport à, comment il s'appelle? À Mbappé. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit Mbappé, il gagne. Donc, il est français. Mais, ben, c'est lui qui l'a dit. Je reprends ce que Zeribi a dit sur le plateau dont tu parles. Il a répondu à quelqu'un.
Oui.
Quelqu'un qui a toujours des propos Leicesterna, quoi, tu vois.
Oui.
Eh bien, Karim Zeribi l'a regardé et il lui a dit exactement ceci, tu vois. Tiens donc, il lui dit, Mbappé est français maintenant. Il dit, bah oui, parce que genre il est gagnant, il est français. Par contre, s'il était perdant ou si c'était quelqu'un qui avait les mêmes origines,
c'est pas français.
Il lui dit parce que dans vos propos, habituellement, vous faites la distinction entre dans les origines des gens. Je te jure qu'il m'a dit ça. Écoute, le podcast d'avant-hier. Tu sais, Karim Zeribi, heureusement qu'il est là-bas. Moi, je te dis.
Mais Vanessa, s'il te plaît, si je peux en placer une, quand même. Hein, je sais que tu es très véloce, tu es véloce.
Hein? Tant que je suis véloce, ça va.
Non, mais comment, moi, si j'étais à sa place, je ne suis pas à sa place, et lui c'est lui, et moi c'est moi, et toi c'est toi. Je ne pourrais pas rester calme avec des gens aussi médisants, et aussi intolérant, parce que je ne veux pas employer le mot, que tu connais, qui commence par un R.
C'est ce qui fait la différence entre toi et lui, parce que lui, il est intelligent.
Je me fâcherai facilement.
Méziane, et lui, il est intelligent. Justement,
oui,
tu sais.
Il a le droit d'être intelligent.
Non, je rigole. Tu sais ce qui se passe? C'est Karim Zeribi, il a fait l'école de la politique. Il fait de la politique. Donc, les politiciens...
Il a été conseiller de Chevènement.
Oui, mais c'est ce qu'on appelle CSA. La politique, c'est ça. Mais par contre,
attention, la CSA, ça s'appelle la diplomatie.
Mais c'est la diplomatie, c'est
la frontière. La frontière entre la diplomatie et l'hypocrisie, elle est très, très ténue.
Non, il n'est pas hypocrite, lui. Hein, parce que je
n'ai pas dit ça. Oh là là.
Non, mais je sais.
Je te dis qu'il faut faire attention. On est sur la crête.
Est-ce que tu peux écouter le podcast d'avant-hier?
Ah ben, je voudrais bien écouter.
Sur quelle
radio?
C'est la chaîne dont tu parles, ADIA, c'est quelque chose.
Ah bon?
Oh, ouais. Tu vas te régaler.
Parce que vraiment, c'est une chaîne...
Attends, on a une pause, là, tout de suite, on revient juste après, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou, avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000 avec Méziane. Méziane, tu sais... Ne pas tenir face à un adversaire qui et si tu t'emportes, eh bien facilement tu perds tu perds la bataille et tu perds tes moyens et tu deviens pas crédible. Donc non, la force c'est justement de rester stoïque, de garder vraiment, tout simplement tes esprits, hein, de pas de pas perdre pied, mais d'avoir les arguments. C'est ça qui est important, c'est les arguments. Tout par-delà. Mais là, je te reprends juste après, on a Émilienne. Émilienne, qui nous appelle d'où, Émilienne ? Bonsoir, Émilienne.
Bonsoir, madame Vanessa, quoi.
Vanessa, tout court, Émilienne. Bienvenue. Ah. On peut se tutoyer, Émilienne ?
Mais bien sûr, bien que je sois un dinosaure, comme m'a dit la radio orange, le téléphone orange. Dit, parce que je voulais parler à l'être humain.
Quel bel accent, j'adore cet accent qui te vient d'où ?
De mon Oran Mostaganem, Sidi Belabès, Anne Sefra, je suis une pied noire, quoi.
Pied noir, je sais pas pourquoi on l'appelle pied noir.
En Algérie,
quel bel accent.
Je descends de l'avion, me dit je suis pied noir. Je me demandais de qui parlait. J'avais jamais entendu ça. Jamais.
Ben oui, tu vois, comme quoi.
Mais c'est pour ça que je dis tout ce que vous ressentez. Tout ce que les jeunes ressentent, mes enfants, ma famille, mes frères, mes soeurs, dès qu'ils sont descendus, quand on nous a renvoyés, la même chose que maintenant. C'est pour ça que je vous écoute tout le temps. Dès que je peux capter.
C'est gentil. Tu sais, Émilienne, oui, tu es rentrée en 62.
Mais oui.
Mais en 62, parce que, en vérité, quand tu dis renvoyer, c'est pas tout à fait ça. Regarde, il y avait la peur. C'est vrai que c'était une époque où tout le monde avait peur de tout le monde. C'était horrible. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont nés en Algérie, hein, mm-hmm. d'Européens qui sont nés en Algérie, mm-hmm. Comme toi, et qui sont restés. Moi, j'en ai rencontré. Je sais pas quel âge tu as, mais j'imagine un petit peu.
J'ai 88 ans.
Ah ben écoute, comme on dit chez moi, l'aïbarek, je pense que tu comprends l'arabe.
Non, mes frères.
D'accord, l'aïbarek.
Vous savez, nous les filles,
oui.
C'était comme les filles, là-bas. Oui. La fille à la maison, qu'il faut qu'elle aide la maman.
Ah ben oui, avant c'était comme ça. Ah oui,
et
pour tout le monde.
Je travaillais quand même dans la confection, après, dans un magasin prisonnier comme au Saganem et tout ça. Et après, je me suis mariée avec belle-maman. Il n'y avait pas moyen d'avoir ni des amis, ni rien.
Oui, avant, c'était comme ça.
Oh,
et tu t'es mariée, tu es rentrée avec tes enfants ou tu...
J'avais deux enfants et demi.
Deux enfants et demi? Il y en avait un qui était dans le ventre.
Voilà, il avait
d'accord.
deux mois.
Est-ce que tu es retournée à Oran?
Ah, bien sûr. Ah, 11 bon. Ans, jour pour jour.
11 ans plus tard.
Voilà. Et je vous assure.
Oui.
Écoutez. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie. Je ne sais pas pourquoi. La terre de là-bas, elle nous a ensorcelés. Le matin, quand je suis partie travailler à 5h30. Non, écoutez. Aucun endroit. Je ne vais pas voyager, j'ai pas les moyens ni rien. Mais ça, c'est resté ancré en moi. Alors l'autre fois, j'étais soignée un beau-frère qui était hospitalisé, les gens à côté ont parlé, tout ça. Il me dit, est-ce que vous aviez des terres en Algérie? Je les regardais, je dis, mais bien sûr qu'on avait des terres, là où sont enterrés tous mes défunts. Et on a payé la terre, on ne l'a pas volée. Parce que des fois, vous dites qu'il y avait avec des gens avec la cravache. Moi, je
vois... La cravache
oui.
Non, la cravache, c'est l'esclavagisme. Non,
oui, mais ça,
non la colonisation, ce n'était pas l'esclavagisme. Il n'y avait pas la cravache non plus.
Non, enfin, au contraire.
Non.
Écoutez.
Oui, non, non. Mais...
Mes voisins, c'était des Algériennes.
Mais la colonisation, c'était quand même quelque chose de très compliqué. Parce que toi, tu es né, tu as 88 ans. Donc, tu es né les années 35, 30, 34, hein, 34, 34. Voilà. Mais avant ta naissance, quand la colonisation est arrivée en Algérie, les années 1830, etc., les débuts des années 1900, c'était pas commode, ma chérie, quand tu remontes à l'histoire. C'était difficile.
Je sais,
tu comprends
beaucoup.
Voilà.
Savez,
donc, les peuples étaient. Ils ont vu des gens venir chez eux, les envahir, des envahisseurs pour eux, les
oui,
envahir,
mais l'Algérie,
leur prendre.
Pas l'Algérie, à l'époque.
Ah si, c'était l'Algérie. C'est ce qu'on met dans la tête des gens en leur disant que c'était pas l'Algérie. L'Algérie a toujours été l'Algérie. Mais oui, eh oui, l'Algérie a toujours été l'Algérie. C'est
et
ça.
Il y avait là, les frères Barberousse, il y avait l'impératrice, il y avait...
Oui, ben oui, voilà. Mais c'était des Algériens. Il y avait des pirates de part et d'autre, malheureusement. Tout ce qui était autour des mers, par exemple en Algérie, c'était une des villes côtières comme Alger, tout ça. Peut-être Marseille, etc. Ils avaient peut-être leurs pirates aussi, hein. En Italie, en Espagne, chacun avait ses pirates. En Algérie, c'était un peuple souverain qui avait ses terres et du jour au lendemain, ils voyaient. Tu comprends? C'était compliqué. Maintenant, on va pas refaire l'histoire, mais il faut.
C'est pour ça que je me suis permise.
Mais c'est bien que tu sois retournée. Moi, ça me fait plaisir que tu puisses retourner.
Nous sommes retournés avec mes enfants.
Ça, c'est bien.
Grand après.
Ah oui.
Avec mon fils aîné, qui est venu avec sa femme qui attendait un bébé, pour aller voir à une Sephra là où mon mari est né.
Ah oui.
Eh bien, écoutez, je les ai appelés plusieurs fois. Au début, j'arrivais à les joindre, mais non. C'est le restaurant El Salam. Mohamed. Zora.
Tu n'as pas appris à parler l'arabe toutes ces années, Emilienne?
Mais non, je ne voyais pas. On ne sortait pas. Je sais des mots. Je sais des mots.
Et parce que vous ne côtoyez pas les autochtones, les Algériens musulmans?
Mes frères, ils parlaient mieux qu'un arabe.
Est-ce que vos femmes, la famille, elle ne vous laissait peut-être pas côtoyer les musulmans?
On allait à l'école ensemble et arrivé un peu grandette, les filles, on les voyait plus. Et après, on a compris. Vous savez, avant, on avait de la pudeur. Nos parents, ils ne nous disaient pas pourquoi on ne les voyait plus. Alors, ce qui fait que ma mère, avec les voisines, se parlait. Ma mère, elle ne disait pas une phrase. Il n'y avait pas espagnol, français, arabe.
Tu sais pourquoi les femmes, les filles et les garçons aussi musulmans n'allaient pas à l'école?
Non, ça c'était les copains de mes frères.
Oui, tu sais pourquoi ils n'allaient pas à l'école? Pour la grande majorité, il y avait très peu de privilégiés, mais la grande majorité n'allait pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, il fallait qu'ils travaillent. Non. Tu sais que pendant la colonisation, il y avait même des cireurs de chaussures à Alger. Ils ciraient des chaussures des gamins de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Alors qu'après... Quand il y a eu l'indépendance, Ben Bella l'a interdit ça. Il a dit à la poubelle tout ça, je ne veux plus voir de cireur de chaussures.
Et c'est pour ça,
Emilienne, faut que tu saches pourquoi il n'allait pas à l'école. C'est pas parce que c'était pas culturel. Hein. Tout le monde a envie d'apprendre, tu comprends. Mais sauf que il devait travailler. On appelait ça des journaliers. Ils travaillaient la terre, ils allaient ramasser.
Mais c'était ouvrier, journalier.
Ben, tu vois, voilà. Et eux, ils étaient obligés de travailler très jeunes, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un cahier, un stylo. Ils étaient pieds nus. Ils n'avaient pas.
Et pourquoi les garçons?
C'est ça. Non, même les garçons, c'était rare.
Ah non, j'allais à l'école.
Les
frères, chez les pères blancs.
Écoute, quelques privilégiés, tu as raison. Quelques privilégiés. Sur les millions d'Algériens, tu as bien sûr quelques milliers de privilégiés.
Bien sûr.
Il y a toujours des privilégiés, voilà. Mais le reste, ils n'avaient pas les moyens, ma chérie. Ils n'allaient pas très loin. Il faut de l'argent.
Mon père, il était ouvrier agricole.
Oui.
Mais vous savez, là, qu'en ce moment, ils disent les clémentines corses.
Oui.
Mes grands-parents, ma famille d'Espagne, eh bien, ils ont été aider le frère Clément à travailler dans les champs et tout ça.
Mm-hmm.
Mais c'est des clémentines d'Algérie.
Ben oui.
Mes anciens. Ils ont travaillé à Miverguine et tout.
On sent que ça te manque quand même, hein. Tu as des souvenirs.
Ça me manque.
C'était quand la dernière fois tu es retournée?
C'était en 1990, mais nous, on savait.
Ah, mais pourquoi tu ne retournes pas là? Tu peux retourner encore.
Non, mon mari, il a 90 ans.
Il a du mal?
Moi, j'ai 88 ans.
88 ans, et alors?
Regarde,
tu as une voix toute jeunette, t'es toute fraîche.
Parce que
c'est la terre d'Algérie. C'est la terre d'Algérie. Regarde comme ça entretient. T'as une voix de jeunette.
C'est la magie de cette terre. Sur ma table.
Oui.
Bon, on est en période de deuil parce que je viens de perdre là en 10 jours 2 êtres chers.
Oui. Paix à leurs âmes.
Oui, comme vous dites.
Mais oui.
Sur ma table. De la cuisine, je ne vais pas faire... Non, de toute façon, on n'a plus le cœur à faire. Allez, on ne faisait pas ce qu'on fait ici. Eh bien, écoutez, sur ma table, j'ai une pierre de sel qui vient d'un village ou deux, d'un séfra derrière où mon mari l'habitait.
D'accord.
Je vous ai... Je t'ai appelé l'autre fois. Oui. Et je t'ai entendu pleurer quand je t'ai dit que mon beau-frère, il dit, je donnerai je ne sais combien d'années pour marcher dans le sable d'un séfra.
Mon Dieu, ça me tue.
Je lui ai porté du sable, parce qu'on m'avait dit qu'il vivait ces derniers jours.
Oui.
Et je lui ai dit, Fredou, je ne peux pas vous faire marcher dans les dunes d'un séfra. Oui. Mais est-ce que vous voulez vous frotter avec du sable? Oh, le pauvre. J'ai pris le haricot, j'avais mis du sable, j'ai dit, allez, frottez-vous les mains. Si vous aviez vu, son visage, il resplendissait. Alors, sur
c'est
la
magnifique.
Table, j'ai une pierre de sel.
Oui.
Ça me fait mal.
Ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps. Hein, Emilienne?
Oui, du sel qui vient d'un village derrière Anne-Séphra.
Oui.
Un épi de blé qu'on m'a donné il y a 50 ans, qui vient d'Algérie.
Oh là là.
Il a perdu un peu la paille. Des dates que je n'achète que d'Algérie.
Mon Dieu.
Voilà.
C'est terrible, hein? Terrible, ce témoignage.
Qu'est-ce que j'ai encore? Attendez.
Qu'est-ce qui te reste encore? Il y a une dame. Tu sais qu'il y a une dame? Une dame. Oui. Une dame qui est juive pied noir, comme toi, tu dis pied noir, mais elle est de confession juive.
Oui.
Et qui était née en Algérie. Mmh. Et quand elle est rentrée ici, aujourd'hui, parce qu'elle a des enfants, donc ses enfants ont grandi, ont fait des études, Dieu merci, ouais. Ça se passe bien pour elle. Donc aujourd'hui, elle a une maison ou un appartement, enfin, avec une cuisine moderne, ses enfants, ils ont tout fait et tout. Mmh. Et dans cette belle cuisine moderne, qui est rutilante, qui brille, tout en haut, tu vois, il y a les éléments, et tout en haut, qui trône, une vieille couscoussière.
Ah oui.
Toute cabossée, toute noire en dessous, tu vois. Toute cabossée qui n'a... C'est anachronique, tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait ici, tu comprends? Elle gâche le décor, une vieille couscoussière. Et cette dame, qui a ton âge, elle raconte l'histoire de la couscoussière. Elle dit, quand je suis partie, on a tout laissé.
Oui.
Est-ce qu'il fallait partir, la valise et tout ça, c'est tout ce qu'ils ont pu prendre. Elle a dit, on est parti comme ça à la hâte. Elle a dit, ce que j'ai pris avec moi, c'était cette couscoussière, parce que je me suis juré, parce que cette couscoussière, on faisait, quand il y avait des tristesses, on faisait le couscous dedans. Quand il y avait des joies, des moments de joie, des fêtes, voilà, que ce soit des deuils ou des moments de joie, cette couscoussière, elle était toujours là. Alors elle a dit, cette couscoussière, c'est les souvenirs de sa vie, tu vois, les naissances, tout ça. Elle a dit, elle la garderait toute sa vie. C'est ce qu'elle a ramené et elle l'a mis tout en haut sur un élément de sa cuisine. Et quand tu vois sa cuisine qui brille, qui est rutilante et que tu vois cette vieille couscoussière, tu te poses la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, cette couscoussière, elle a une histoire. Et quand elle te raconte son histoire, ben moi, je pleure.
Moi, j'ai dit que...
T'as les larmes qui coulent parce que c'est... Et ce que tu viens de me raconter, cet épi de blé qui a plus de 50 ans, qu'on t'a ramené, qui perd ses aiguilles... Qui perd ses aiguilles, qui est devenu chauve, quoi. Voilà. Et qui ressemble plus à un épi de blé, mais à un fantôme,
mais
on va dire.
Vous savez, tu sais, comment t'expliquer ça? Je voudrais retourner à la route de Pélissé à Mostaganem, parce que quand, vous savez, il faisait chaud à 1h30 en plein cagnard, hein, pour aller travailler. Mes talons, parce qu'à l'époque, on était des talons, jolies jeunes filles. Mes talons rentraient dans le goudron. Et l'autre jour, je lui ai dit, ma petite fille, je ne voudrais pas mourir, parce que l'autre fois, on n'a pas eu le temps, vous savez, en voyage comme ça, et j'ai fait, on m'a laissé 1 heure pour aller faire 2 ou 3 fois la route et le cimetière et tout ça.
Quand tu es parti, les années 90, c'est ça, en 90.
Oui, en 90. Oui. J'ai dit, mon Dieu, je voudrais pas mourir sans retourner, voir s'il y a encore les trous dans le goudron.
C'est incroyable, ouais. Tu vois, les détails qui... Il n'y a que toi, voilà, il faut avoir vécu ces moments pour voir ces détails.
Et écoute, quand j'allais la route de Pélissier, c'était dur parce que j'imaginais mon père venir vers moi avec 2 grosses pastèques sous les bras.
Oh là
quand
là.
Il revenait dans la ville. Et on ne peut pas oublier un pays.
Oui. Et tu en parles, tu, bien sûr. La terre d'Algérie, quelque chose, c'est une terre qui est particulière. C'est une terre qui est précieuse et particulière. Ça, je te l'accorde. Et tes enfants, est-ce que tu leur parles de cette terre? Tu leur parles de ton histoire? Tu leur parles, je parle des petits-enfants. Enfin, des petits-enfants.
Maman, tu me l'as dit. J'ai dit, je sais, je radote. Mais je veux non, pas c'est que pas tu oublies.
Mais bien sûr, c'est bien, il faut raconter. Il faut raconter, tu as raison.
Oh là là, la pauvre. Écoutez, mais ce qui me chagrine, c'est que j'arrive pas à voir la famille d'un de ses frères. Quand ils nous ont vus arriver, après, il me l'a dit. Oui. Je lui ai dit au chauffeur, donne-leur, hein. Il me dit, mais après, j'ai vu qui vous étiez. Et c'est un petit neveu d'un ancien copain à mon mari d'école, Dain Sefra.
Ouais.
Si vous, et tout le village, ils ont su.
Ouais.
Que mon mari, le fils d'Dain Sefra,
ouais.
Sont venus à l'hôtel qui nous a logés. Et ils nous ont parlé du petit chien, de la petite chienne, de mes beaux-parents,
mon Dieu.
Et Oulette. Et mon fils, l'autre jour.
Les souvenirs qui
maman,
se bousculent.
Maman, je sais très bien que tout ce qu'on dit, c'est pas vrai. Vu comment on vous a reçu. Et qu'on me disait, tu viens, t'as le lit, t'as une chambre et tout. Et dernier, depuis 92. Après. Mais nous, on ne savait pas qu'avec ces événements là-bas, le fils et compagnie, on ne savait pas ça. On est allé. Et bon, la prochaine fois, je te raconterai ce qui m'est arrivé.
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Là, je vais devoir te laisser parce qu'on a une pause là tout de suite.
Je t'embrasse. Embrasse bien le petit jeune homme.
Merci, Emilienne.
Et le monsieur Méziane, là. Et celui d'Alger qu'on n'entend plus.
Celui, lequel?
Tout, qui donnait des bons conseils, qui devait venir en métropole et il venait tous les jeudis ou les vendredis au téléphone.
Ah oui, Samir, ah oui, c'est vrai. Ah ben là, voilà. Il est dans ses occupations, apparemment, c'est très compliqué pour l'avoir. Parce qu'il est prof à la fac, en même temps, il fait autre chose, donc c'est très compliqué.
Il parlait très, très bien.
Ah, il parlait bien, hein. Ah, oui. Emilienne, je t'embrasse très fort.
Je t'embrasse à
tu
toi,
es très attachante. Et reviens surtout, reviens
oui,
vite.
Oui, mais d'accord, je reviens.
Ne tarde pas, hein, tu reviens. Eh bien écoute, reviens ces jours-ci pour nous raconter la suite, ok?
Oui, 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 oui.
Gros bisous, j'adore. Oui, 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 aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression d'entendre ma mère, c'est magnifique, vraiment. 01 53 48 3000, c'est beau, hein, c'est vraiment beau, les personnes de cet âge qui vous racontent des livres ouverts, voilà, qui racontent leur histoire. Le passé, qui n'est pas loin pour eux. Hein. Et puis, ils ont besoin aussi. Faut écouter. C'est très important. C'est important. On a une petite pause là et on revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, et c'est comme ça que ça se passe chez nous. On est resté sur une note nostalgique avec Emilienne, 88 ans. À une petite voix, toute mimi, toute mignonne, Aïn Sfra. Ah, ça l'a marqué, Aïn Sfra, ben oui. Sa terre natale, ça marque hein, quand même. Hein. Surtout que quand on avance dans l'âge, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de son passé. C'est important, le passé. Eh oui. 01 53 48 3000. Alors, on a Méziane.
Ah oui, allô.
Méziane et Khalid.
Oui, salut Khalid.
Salut Méziane.
Je t'ai pas salué tout à l'heure, j'ai oublié.
Non, non, mais le cœur y était.
On a Laurence aussi avec nous, hein, parce que ça fait un moment qu'elle
a... Je voudrais saluer Emilienne. Je voudrais passer un grand bonjour à Emilienne.
Oui, elle doit être à l'écoute, c'est certain.
Et je lui présente tous mes hommages d'Algériens qui peut avoir des sympathies pour des pieds noirs, parce que tous les pieds noirs n'étaient pas des colons mauvais, d'autres étaient des
bien
gens
sûr,
amicaux. Et bien, et d'ailleurs, il y a tel point qu'il y a beaucoup de pieds noirs qui retournent en Algérie.
Bien sûr.
Et qui vont
qui se remémorer leur lieu de
naissance. Voilà.
200 000 sont restés en Algérie, hein, quasiment.
Et il y en a qui sont restés.
C'est
et puis il y en a d'autres qui sont revenus, mais qui retournent de temps en temps faire un tour là-bas. Et je voudrais d'ailleurs, à ce propos pour Emilienne, il y a un livre de, comment s'appelle, Benjamin Sora. Lui, il a dit que sa mère, bon, maintenant, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas, enfin, je ne pense pas, paix à son âme, comme on dit. Et ouais. Il a dit qu'il a retrouvé dans la table de nuit de sa mère ouais. les clés de leur appartement de Constantine.
Oh là 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 là.
Elle a gardé les clés dans sa, dans sa ah, table ouais. de nuit, dans le tiroir de sa table de nuit.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ce que faisaient beaucoup d'Algériens, enfin d'origine, on va dire, ouais. Européenne. Mais bon, les Juifs, pour parler des Juifs, eux étaient des Algériens à part entière. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'immigration. Ils ont gardé pour beaucoup la clé de leur appartement. Mais c'est un truc international, puisque si on veut extrapoler un peu, les Palestiniens font la même chose. Ils gardent la clé de leur maison. Pour garder la mémoire, la clé, quelque chose de précieux dans la mémoire collective, quel que soit.
Mais comme l'histoire de la couscoussière, de cette dame, de cette dame juive d'Algérie qui était rentrée en France en 62 et elle a pris sa couscoussière. Voilà. Tu vois, cette couscoussière qui avait servi pour les moments de deuil, des moments de joie aussi, et de naissance, etc. Et je te dis, dans cette cuisine qui est vraiment une cuisine neuve, rutilante, où la couscoussière n'avait vraiment pas sa place. Alors quand tu la vois trôner tout en haut de ce meuble, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle a une histoire, cette couscoussière.
Et tu sais, Vanessa, Vanessa et Khalid...
Ouais, elle est toute cabossée, mais voilà, elle a une histoire.
Vanessa, Khalid et, ouais. et Florence, je crois que Florence...
Laurence.
C'est très émouvant,
bon.
Cette histoire.
C'est beau,
hein,
Laurence.
Bonsoir, Laurence. Moi, il y a une trentaine d'années...
Laurence d'Arabie qui est avec nous, je crois.
Il y a une trentaine d'années, là, Vanessa...
Oui, oui.
Il y a une trentaine d'années, je suis descendu dans un hôtel vers la place des Martyrs à Alger.
Ah oui, oui.
Un bel hôtel. Oui. Et j'ai discuté avec le gérant, et il m'a dit... cet hôtel appartenait à un propriétaire, un parti privé, quoi, dans Capinor. Et depuis l'indépendance, il y a 30 ans, c'est-à-dire, je ne sais combien d'années, plus de 35 ans après, le tribunal n'a pas encore, n'ont pas tranché, et c'est par rapport à l'histoire de bien vacant.
Bien vacant?
Ils ont été revendus
aux personnes qui habitaient dedans.
C'était le FLN qui avait repris le hôtel.
Non. Ah oui, l'hôtel.
Ah, c'était le FLN, oui.
L'hôtel, peut-être.
Il appartenait au parti du FLN.
Ah, peut-être, oui. Bah, c'est l'État. Mais les maisons, les appartements ont été revendus, ça je le sais.
Ont été revendus
aux personnes qui habitaient dedans.
Et il y avait un autre hôtel aussi.
Pour pas cher, hein. Vraiment pour pas cher.
Il y avait un autre hôtel rue.
Les gens, ils n'avaient pas les moyens.
Rue à Ben Ramdan, un hôtel aussi, où il y avait dans la mosaïque une étoile de David.
On dit FLN, c'est l'État, quoi. Enfin, on aime bien toujours mettre. Ouais, qu'est-ce que tu disais?
Il y avait la mosaïque dans le hall. Il y avait en machin en carrelage, une petite mosaïque.
Oui.
Il y avait l'étoile de David.
Oui.
C'est normal, la Mésiane, puisque c'est la religion mosaïque. C'est normal dans les mosaïques.
Ah, voilà, ça t'aime bien.
Non, moi je pense que...
Mais ils l'ont pas enlevé, ils l'ont gardé, ils l'ont laissé comme ça.
Bah oui, il y avait des synagogues et tout, bah oui, ils l'ont gardé, c'est bien.
Et le fameux restaurant dont
on
parlait l'autre fois.
C'est ça, respecter les religions.
Le restaurant dont on parlait l'autre fois à la Madrague, là,
chez Sauveur.
Ils ont gardé le nom.
Oui. C'était le nom qui existait déjà auparavant, en fait, c'est ça?
Oui, non, mais ce que moi j'avais pensé qu'à partir de l'indépendance, ils ont dû changer les noms des rues, les noms des villages, comme Borj El Kifan, c'était Fort de l'eau, et ainsi de suite.
Oui, les villes
ont
changé,
c'est vrai,
beaucoup. Ouais.
Comme par exemple Philippeville, c'est Skikda, et ainsi de suite. Skikda, ouais. Et Orléansville, le Snam. Hein?
Le Snam, bien sûr. Oui.
Donc ils ont réarabisé normalement.
Ouais. Mais il y en a qui reste à Médiane finalement. Hein.
Comment?
À Médiane, ça restera toujours à Médiane finalement.
Ben ouais.
Médiane, oui. Tu sais, je voulais dire, ça me fait penser tout ça, c'est très émouvant et ça, c'est pareil pour tout le monde en fait. Je remarque ça parce que ma fille m'a dit l'autre jour, c'est dommage qu'ils aient vendu la maison, papy et mamie, parce qu'on ne pourra plus jamais retourner. Où est-ce qu'on a grandi?
Ah, oui,
c'est où, Laurence?
Tout le monde a la nostalgie
C'est
tout ça. France, non, c'est en région parisienne.
Des souvenirs.
Bah oui, mais c'est important, pareil. Même région parisienne, c'est important, oui.
Les souvenirs. J'aimais beaucoup aller chez mon pépé, ma mémé, dans leur appartement.
Ouais, oui, tu vois, les souvenirs.
En région parisienne aussi. Et ouais, ça m'a fait mal au cœur quand on l'a vendu, qu'on a...
Eh ben moi, je vais te dire une chose. Eh ben, confidence pour confidence. De temps en temps, il m'arrive rarement, mais de retourner rue des Rosiers, là où j'ai grandi, devant le 27 rue des Rosiers, où j'ai fait vraiment ma première école, quoi, hein, toute petite, et mes camarades. Et quand je retourne dans ce quartier, j'ai l'impression de revivre ces moments et d'entendre le cri des enfants, mes camarades, etc., qu'on appelait le petit quartier juif de Paris, la rue des Rosiers, l'école hospitalière Saint-Gervais, où les enfants ont été déportés les années sombres de on sait très bien, la Seconde Guerre mondiale. Et ben, j'étais dans cette école. Tu vois, on a des souvenirs quand même qui se ravivent.
Laurent, c'est Vanessa.
Oui,
excusez-moi.
Oui, oui.
Il paraît qu'il y a un site, depuis pas mal d'années maintenant, où les gens peuvent lancer un appel en donnant le nom de l'école, le nom des instituteurs ou institutrices, et l'année, pour pouvoir retrouver des anciens élèves.
Copain d'avant, oui, alors.
Copain d'avant, ouais.
Ah ben c'est ça alors.
Ouais, voilà. Copain d'avant.
En parlant de ça, moi j'ai grandi dans
alors quand tu, au bout de 30 ans, on arrive à se retrouver 35 ans après, ça fait 6 ans.
Ouais, enfin bon, ça
oui,
te...
c'est chouette, ouais.
Faut envie,
je vais vous dire,
envie.
J'ai grandi dans une cité, ça peut paraître bizarre aux gens, mais moi j'aime bien vivre en appartement. Et quand mes parents, ils ont acheté une maison, j'avais pas envie d'y aller. Je voulais pas quitter ma cité, c'est drôle. Hein.
Ah ben non, parce que t'as des souvenirs, des camarades...
Ah, moi aussi, j'aime vivre en appartement, mais à condition que ce soit dans le 16e arrondissement.
Ah, bah voilà.
Ah, bah ouais, chacun son
château. Dans le château à Versailles.
Si on me donnait à choisir, vivre dans un chalet à la montagne ou au bord de la mer, c'est chouette aussi, bien sûr.
Au bord de la mer, mais à Monaco alors.
Mais toi, t'aimes ta cité. Bah, c'est les souvenirs.
Est-ce que vous imaginez, un endroit où vous avez laissé un objet 30 ans avant, et puis vous le retrouvez 30 ans après au même endroit.
C'est l'imagination de fertile de Méziane.
Avant qu'on se quitte, te remercier Vanessa, remercier Méziane et tous ceux que j'ai écoutés avec plaisir, Emilienne. Juste avant, quand tu parlais de l'exubérance et du plaisir de la manifestation de bonheur de Macron, te rappelais que plus que l'exubérance de Chirac, ça n'existe pas. Souvenez-vous de Chirac avec Zidane dans ses bras, etc.
Alors attends, je suis obligé de vous laisser. Revenez demain, terminé, on est obligé de vous laisser. Alors, une bonne fête de Hanouka pour nos amis de confession juive. Alors, bonne fête de Hanouka. Et je vous donne rendez-vous demain, dès 11h, pour vos petites annonces. À demain, je vous aime. Bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.